Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Pardon, attends, 3-4, oui, oh, oh.
J'aimerais que tu laisses cette intro. Attends, 3-4, bon. 3-4.
Primo auditeurs et auditrices, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais...
Bah.
Oh.
J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne discutez pas dans les commentaires.
Mais bien sûr que si, Mimi, je fais ce que je veux, d'accord?
Oui.
Je n'ai pas compris ce point dans le podcast.
Le kiff. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases.
Quoi? Quoi?
Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là, putain.
Mais ça va pas de me poser une question pareille.
Bonsoir.
Bonne année.
Bonjour. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer numéro 180.
Wow.
On va commencer tranquillement à réfléchir à qu'est-ce qu'on va vous faire pour l'épisode 200. Écoutez, je suis Mimi, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle. Vous le savez car c'est quand même rare de commencer un podcast à l'épisode 180, mais j'aime vous le redire. Je suis en compagnie de ma team habituelle, la team de choc, à savoir Mathis, Aïda et Kalindi.
Oui, bonjour.
Et comme d'habitude, nous allons apprendre à nous connaître grâce à une question qui cette fois-ci a été choisie par Mathis. Et je vais le laisser expliquer pourquoi on se pose cette question aujourd'hui.
Un truc qu'on connaît, hein.
Ouais, oui, pas les joints de culasse, s'il te plaît.
Oui, parce que Mathis m'a aussi dit, plan B, quel joint de culasse êtes-vous?
J'ai dû aller googler ce que
voilà.
C'était.
J'ai menacé du coup l'équipe de transvaser la tâche questionnaire de Proust intégralement à Mathis si vous continuez à critiquer mes choix de questions. En attendant, ça va pas être joint de culasse aujourd'hui, mais ça peut vous arriver. Attention
la punition.
Quel joint de culasse êtes-vous? Tout simplement, est-ce que je pose la question ou est-ce que je contextualise juste? Ah oh mon Dieu, quelle responsabilité. La question, tout simplement, c'est quel ex êtes-vous? C'est-à-dire, après une relation...
Ça va, tu connais, t'en as deux, trois, enfin, c'est bon. T'en es aussi pour des gens.
Voilà, vous avez le concept. Et pourquoi je vous pose cette question? Eh bien, parce que ce jeudi... 4 plus 7, je pose 3, 17.
Attends, on est le 10, c'est dans 7 jours, et t'as réfléchi.
Je savais pas qu'on était le 10, personne ne l'a dit.
On est le 10?
Personne.
On est le 10.
Quoi. On est le 10.
Le temps file, mes amis, mais c'est terrible.
Mais quelque chose.
Hier
de
encore, on était en 2002,
mais
quoi.
Voilà. Et le prix du melon.
On perd le fil, Mathis. Refocus.
Votre ex, donc.
On a une annonce à vous faire, ok?
On a une annonce à vous
faire. C'est important ce qui se passe. Let's go.
Il y a 3 jours, vous avez loupé la sortie du meilleur podcast, enfin du nouveau meilleur podcast, avec Laisse-moi kiffer, avec Le seul avis qui compte, avec Un coup de pied dans les urnes, avec Game of Thrones Mademoiselle. qui est le podcast Ce que j'aurais dû dire à mon ex. Que Aïda a permis de créer, qui est en gros un témoignage, une carte blanche. Aïda, si tu veux compléter, m'insulter, ajouter des trucs, retirer des trucs, je t'en prie.
Je ne t'insulterai jamais, Mathis, les micros sont allumés. Non, je rigole, je t'insulterai pas tout court, pardon. Ceci n'est pas un environnement de travail hostile.
Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle me donne des coups de pied dans le tibia en revanche tout le podcast, et ça, personne ne peut le savoir. C'est fou.
Jamais de la vie. Ce que j'aurais dû dire à mon ex, un podcast Mademoiselle d'excellente qualité qui va arriver bientôt, dans lequel des lectrices de Mademoiselle, des auditrices de Mademoiselle et toutes celles qui auront envie de participer auront carte blanche pour dire à leur ex tout ce qu'elles auraient aimé lui dire et qu'elles ne lui ont pas dit. Ça va être un podcast, ma foi, où il y aura de l'introspection, de l'émotion, du drama, évidemment.
Évidemment.
Et beaucoup de choses merveilleuses en perspective. On va parler de la rupture, globalement.
Tout à fait.
On peut dire des trucs sympas.
Bien sûr.
Oui, c'est pas...
C'est un podcast d'insultes à son ex.
Chacun met ce qu'il veut dans ce
Exactement.
Que j'aurais dû dire à mon ex.
Okay. J'avais proposé comme titre initialement « Écoute-moi bien, trou du cul », mais c'était compliqué de faire passer...
l'avantage d'être non-genré.
Absolument, ça, car tout le monde peut être un trou du cul. Chacun et chacune, voilà. Non mais voilà, t'as résumé ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà, c'est sorti le 14, soit le jour de la Saint-Valentin, où vous étiez seul et malheureux et malheureuse.
Non, ça va.
Tu connais pas le futur, Mimi.
Wesh, c'est en 4 jours.
On ne sait pas ce qui peut se passer en 4 jours.
Je viens d'emménager avec mon mec et tout, laisse-moi tranquille. Saint-Valentin, on touche du bois, tout va bien se passer.
C'est vrai.
De toute façon, je la passe pas avec lui, donc c'est pas très grave.
Ok.
Oui, je sais.
Donc, quel ex êtes-vous, chère personne autour de moi? Je suis très fatiguée aujourd'hui, sachez.
Ok. Tout va bien se passer.
Mimi!
Allez, je vais commencer, puisque pour une fois, c'est pas moi qui pose la question.
Oui,
c'est vrai.
Je pense que, à la fois de par mon tempérament ainsi que la réalité de ma vie, je suis quand même globalement l'ex avec qui tu restes pote. Parce que je suis pote avec plusieurs de mes ex. Ça dure pas toute la vie, mais souvent. Enfin, en gros, j'ai un. Pardon. Je suis toujours pote avec mon ex le plus récent. Et tous les, la plupart des autres d'avant, pas ceux qui étaient des connards, on est restés potes. Juste au bout d'un moment, on s'est perdu de vue. Donc je dis pas que c'est des amis pour la vie. Mais bah là, mon ex, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans qu'on est séparés. Et après une petite période de... On fait une pause, on prend nos distances, bah, on est de nouveau potes. Parce qu'en fait, je pars du principe que c'est quand même rare d'arrêter à 100% d'aimer quelqu'un. C'est juste que tu l'aimes différemment. Que si on a passé autant de temps ensemble, parce que je suis plutôt relation longue, je fais pas trop des couples de 2-3 mois... Bah, c'est qu'on a quand même des points communs et que du coup ce serait dommage de tout balancer avec l'eau du bain. Après, il y a des ex qui ne se sentaient pas capables ou qui n'avaient pas envie de rester potes, il n'y a pas de souci, je ne force personne. Mais j'aime bien rester pote avec mes ex et ça correspond à tout mon truc de l'amour, la sexualité, l'amitié, tout ça. Finalement, c'est des frontières qui sont un peu poreuses et qui évoluent et finalement c'est que de la connexion humaine, quoi.
Waouh!
Voilà.
Quelle belle réponse!
Ouais, c'était bien.
C'est difficile de passer après.
Hein. Tu veux enchaîner, Kalindi, t'as l'air motivée.
Ouais,
là.
Bah, alors, non, mais en plus, moi, c'est presque pareil. Non, moi je suis l'ex relou qui veut absolument rester ami avec toi, mais toi tu veux pas.
Un peu moi, du coup, moi avec un potard au max.
Ouais, c'est un peu ça. En fait,
ça correspond bien.
En fait, le truc c'est que moi je supporte pas la fin des choses, je supporte pas la fin des films, je supporte pas la fin des repas, je supporte la fin de rien. C'est un problème que je travaille avec ma psy. Et je supporte encore moins la fin des relations, même quand c'est moi qui choisis de mettre un terme à la relation. Je veux garder les gens dans ma vie, coûte que coûte.
Je quitte, mais va nulle part quand même. Hein.
Ouais, non, mais c'est plus. Moi, j'ai pas du tout de soucis. Ça me fait trop plaisir quand mes ex rencontrent d'autres femmes et qu'ils entament de nouvelles relations. C'est juste que moi, j'ai besoin de faire partie de la vie des gens que j'ai aimés et qui m'ont aimé. Et c'est pour ça que, pareil, mon ex le plus récent, avec qui j'ai passé plus de 5 ans de ma vie quand même, est resté un très très bon ami. On s'est pas vu pareil pendant 6-8 mois, je pense, au début, parce que trop difficile pour nous deux. Et puis aujourd'hui, ça va mieux. Je l'aide à déménager ce week-end. Il faut que je trouve, il faut que je retrouve sa perceuse. J'ai plein de choses à faire avec lui. Donc on reste très amis. Et en fait, globalement, avec tous mes autres ex, à part le premier qui était vraiment un trou du cul, je crois que je suis une ex sympa. Voilà.
Okay.
En fait, et puis non, voilà. Et aussi, je suis une ex qui en attend, enfin, qui idéalise de ouf ses relations passées. Et genre, par exemple, moi, dans ma relation actuelle, j'ai dit à mon mec, moi, mon enfant s'appellera comme mon ex. Il m'a dit, ah bon
Tes enfants.
Mais non, mais je trouve ça un peu logique, tu vois. Moi, non. J'ai cru que j'allais faire.
Comment mais why not, tu vois, mais ça ne se fait que peu.
Bah, je sais pas, parce que moi je me dis, cet homme que j'ai aimé plus que tout avant, c'est un peu normal que je lui rende hommage d'une manière ou d'une autre. Donc
alors,
je peux mon enfant.
Si ton mec t'avait dit, notre enfant aura le prénom de mon ex.
Ça ne serait pas arrivé de toute façon. Mais.
Là qu'on refuse d'envisager l'éventualité, ce genre. Non, c'est moi
non,
qui
je sais, c'est
faut
moi.
Faut pas dater des gens qui s'appellent Alceste, quoi, c'est compliqué.
Ouais, ouais, non, mais là c'était un joli prénom. Et puis, ou alors, tu vois, je dis, mon ex sera le parrain de mon enfant. Et ben, mon ex, d'ailleurs, est le parrain de l'enfant de son ex. Enfin, franchement, moi, j'ai des rapports chill aux ex de manière générale. Voilà. Et je suis pote avec les ex de mes ex, je suis très pote avec deux des ex de mon ex. Enfin, en fait, ça va bien, quoi.
Au top.
Voilà.
Very Kalindi. Wow. Un peu forceuse, mais avec amour.
Un peu forceuse, mais...
Aïda, quel ex es-tu?
Non mais moi je suis d'accord avec absolument tout ce que vous venez de dire sur le principe. J'aimerais être vous,
mais je suis vénère.
L'ex chill, l'ex. Non, en vrai, j'ai pas vécu énormément de ruptures dans ma vie. J'ai pas mis l'ex, sachant qu'en plus là je suis en couple depuis moult années à l'heure actuelle. La plus grosse rupture de ma vie est à peu près à l'image de ma personnalité, je crois. C'est-à-dire que je suis une ex de type... Ah tiens, et si on fermait le tiroir et on le rouvrait plus jamais, et puis ensuite on allait chacun faire notre life de notre côté et qu'on se donnait pas trop de nouvelles.
Une forme de coupure nette, quoi.
Une forme d'ex-fuyante, tu vois, contrairement à vous. Mais j'aimerais être autrement, tu vois. Moi, ça me paraît très beau et très sain, tout ce que vous racontez.
Je sais pas si c'est très sain.
Mais d'appeler son enfant par le prénom de son ex, bon, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un beau prénom.
Non mais c'est beau, tu vois, sur le principe de cette idée que quand on a aimé quelqu'un et qu'on a passé beaucoup de temps de sa vie avec cette personne, bah on n'a pas envie de l'a quitté drastiquement du jour au lendemain sous prétexte qu'on l'a quitté amoureusement. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut encore aimer quelqu'un de plein de manières différentes.
De ouf.
Voilà, ma vie ne ressemble pas à ça.
Tout ça est très bien sur le papier, mais
voilà.
Je suis pas ça.
Moi, je suis plutôt en mode j'aime bien quand les choses qui ont eu un début ont une fin, qu'elle est claire dans ma tête. J'aime bien quand c'est pas confus, quand il y a pas de deal de on reste potes, mais en fait il y a quelqu'un qui attend un truc de l'autre et machin. Enfin, je sais pas. Il y a des choses compliquées pour moi dans la gestion des relations, enfin qui ont été compliquées une fois, puisqu'encore une fois, je n'ai pas vécu 12 000 ruptures. Voilà, j'aime bien. J'aime bien quand ça s'arrête. Je continue à aimer les gens dans ma tête sans communiquer avec eux. C'est vachement bien.
Ils le savent pas, mais c'est réel quand même.
Beaucoup d'affection de loin. Bisous, bon vent. Tu vois, pas de rancune. Pas de colère et tout. Juste, voilà. Aïe.
Aïda, okay. T'as mis ton masque à l'envers.
C'est vrai.
Je voulais juste te le dire.
Mais maintenant, je peux pas le retourner. Tu vois.
C'est trop tard.
Masque à l'envers forever.
Moquez-vous de moi.
Oui.
All right. Bon, bah, c'était une bonne question à laquelle on a. Mathis n'a pas répondu, j'ai oublié. Bah oui, mais parce qu'on change d'habitude, on change d'ordre. Bref,
oui, oui.
Mathis.
Trouve toutes les excuses que tu voudras pour me censurer. Hein. Écoutez.
Quelle
non, mais j'allais répondre comme vous. Enfin, c'est facile. Je suis un peu pareil. Et puis, je suis vraiment extrêmement proche de mon ex-copine, du coup, avec qui je suis resté plusieurs années au point d'avoir un petit chien. Ce qui, on le rappelle, c'est fait par de l'adoption, car ce n'est pas possible. N'essayez pas chez vous, ne tiendrez pas un chien.
Ah oui, oui, non, ce n'est pas. Même quand un monsieur et une dame s'aiment très fort, ça ne fait pas un petit chien à la fin. Ou alors écrivez-nous,
c'est très, très, très dommage. Mais bon, oui.
Écrivez-nous à j'ai fait ça, à mademoiselle.
J'ai accouché d'un chien, on prend le témoignage, il n'y a pas de problème.
Moi, j'estime que j'ai accouché de mon chat, je lui dis tout le temps, je lui dis t'es portée dans mon ventre. Je dis ça avec ma meilleure amie Élise, parfois je la regarde et je lui dis toi, je t'ai vraiment portée dans mon ventre. Et elle me dit mais va-t'en de ma vie.
Ouais. Normal. Non, mais du coup, pour trouver un truc un peu à côté, je dirais je suis l'ex qui glow up après la rupture. Comme ça, t'as le seum.
Yes.
Parce que, en fait, je suis le genre de personne où j'ai l'impression de devenir zinzin au moment des ruptures, dans le sens où c'est vraiment en mode ok, bah je vais rebrander, ah bah très bien, bah je vais faire du canoë, ah ouais, et puis en plus, et bah, je vais faire la muscu, et en plus, et bah je faisais des poèmes en 6e, et bah j'ai écrit un deuxième livre de poèmes, et vraiment je suis cette personne pendant quelques mois avant d'aller chez le psy, et voilà, ce qui fait que je peux donner une impression de glow up post-rupture, parce que ça me. En fait, souvent, comme je me retrouve de nouveau seul, je me retrouve avec énormément de temps libre. Et moi, quand j'ai du temps libre, bah, je le remplis. Donc, je vois beaucoup plus mes amis, je fais beaucoup plus de sport, beaucoup plus de musique. Je tombe malade. Je fais, voilà, une vie, finalement, quand je laisse le temps de se développer. Et voilà, je suis cet ex, mais je suis avant tout un ex qui reste ami. Je suis un ex qui communique énormément. Et souvent, mes ruptures sont très longues.
Globalement, beaucoup.
Ah bah ça beaucoup, oui. Ça c'est oui. Chine un micro dans la main, oui.
Quand t'es l'ex qui glow up, t'as quand même un petit plaisir, pas très charitable et chrétien, mais un peu réel, de « Ah, l'autre a quand même un peu le seum, tu vois. Je suis quand même ultra BG, quoi. »
Ça marre. Alors, j'allais dire dans ma vie...
Mot est réfléchi.
Je suis sorti globalement qu'avec des gens que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui sont des gens bien, etc. Donc j'ai pas de truc de vengeance ou de rivalité ou quoi que ce soit. Après, ouais, peut-être qu'il y a de ça. Peut-être qu'il y a un peu du... Alors, il y a jamais eu ça par rapport à Camille, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'il y a eu de ça dans d'autres histoires dont je citerai pas les noms.
Très bien.
Voilà.
Très bien, c'est bien d'être honnête avec soi-même.
Félicitations, vous êtes tous d'excellents ex à part moi.
En fait, toi, t'es en mode, je me sens pas à l'aise avec le fait de garder contact. Tu vois, t'as le droit.
Merci de me conforter dans mes névroses.
Et puis en ce moment, je reste pas en contact avec la dernière personne avec laquelle j'ai relâché. Bon, faut dire que ça fait 2 mois, mais voilà.
Ouais, laissez-vous le temps quand même.
Deux mois, c'est court. Mais...
Alright, ouais. On rappelle que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur toutes vos applis de podcast Ce que j'aurais dû dire à mon ex, un podcast exclusif de Mademoiselle à l'occasion de la fête du love et de la rupture. Et on va passer finalement à la prochaine étape de cette intro qui est déjà si longue, je suis ravie, à savoir... Les commentaires, avez-vous des commentaires, mesdames et messieurs? Et on va reprendre l'ordre rituel. Donc Mathis, je vais commencer avec toi, mais je te laisse le temps, bien sûr, de trouver ton petit screen.
Oui, alors j'ai eu pas mal de commentaires pour le coup cette semaine et j'en suis très content. Des gens qui ont réagi à plusieurs kiffs. Il y a quelqu'un qui a été très touchant et qui m'a parlé notamment de ce que j'avais dit sur Édouard Louis en disant que le livre avait vraiment... résonner avec sa propre histoire et que ça avait été très très fort. Mais j'ai choisi un commentaire que j'ai eu plus récemment que je trouvais tout aussi mignon de Coco tiré du bas la montagne qui réagit régulièrement aussi sur le compte Laisse-moi kiffer. Continuez de réagir,
Coucou,
c'est toujours
Coco.
Un bonheur.
Merci Coco.
Et Coco nous a envoyé « Salut, petit message par rapport à l'épisode de 178 où tu nous présentais les, entre parenthèses, fantastiques playlists que tu as faites. Ce qui tombe à pic, car je suis assoiffé de nouveaux sons en ce moment. » Trois petits points. Mystère, on ne sait pas. Et ça m'a donné l'idée de faire des playlists Mom and Dad avec tous les sons de mes parents, qui me ramènent en enfance, dis-je à 20 ans. Bref, j'ai passé la soirée d'hier à chialer en retrouvant des artistes incroyables et à chanter en yaourt au moins autant que dans le passé. Et je te remercie chaleureusement, je vous embrasse tous très fort. Voilà, je trouvais ça très mignon. Et imaginez la séquence Mayahi Mayahu dans la cuisine. Franchement, je dis oui.
Non, mais j'ai pareil. J'ai une playlist où c'est que les sons que mes parents ils écoutaient à la maison et enfin qu'ils écoutent toujours d'ailleurs parce que vraiment musicalement sur une forme de non évolution dans ma famille, qu'ils écoutaient beaucoup à la maison et en voiture parce que on allait au Maroc tous les ans en bagnole. C'est 36 heures de bagnole. Donc et on avait 4 CD en rotation dans la voiture. C'était vraiment la vie avant les smartphones, les gars. On n'avait pas la clim aussi, bref. Et du coup, j'ai une playlist où c'est les sons de mes parents, donc beaucoup de Leonard Cohen, Tracy Chapman, Linda Lemay, les trucs de Foul Daron. Il se trouve
Linda
qu'en
Lemay,
plus...
purée.
Linda Lemay, purée.
Linda Lemay, ma passion. Il se trouve que mes parents ont quand même un goût musical assez cool. J'ai peu de Mayahi et de sons des années 80, je déteste les années 80. Mais plutôt sur du classico, voilà, Leonard Cohen, ça passe toujours crème. Et du coup, des fois, j'écoute cette playlist et j'ai une playlist... Coming Home, où c'est que des chansons qui parlent de retourner chez soi et que des chansons que j'écoutais à l'adolescence.
En regardant par la fenêtre.
Ouais, mais genre en regardant par la fenêtre avec mon sac de linge sale quand j'étais étudiante pour rentrer chez ma daronne, tu vois. Donc il y a tout un truc de retour à la maison. Donc je valide les playlists de parents si vos parents écoutent de la bonne musique.
Faut arrêter de regarder mes chaussettes moches comme ça. J'ai des chaussettes LED, j'en ai pas beaucoup.
Elles
c'est
sont
comme
très
ça.
Belles tes chaussettes. Il a des chaussettes noires à pois jaunes.
Elles sont très
vous LED. Le savez.
Je déteste.
Aïda.
Pardon.
As-tu des commentaires?
Alors j'ai reçu des commentaires et je me suis dit que j'allais
faire une synthèse. Il faut vous dire qu'Aïda n'a aucun téléphone à la main ni quoi que ce soit, on n'est pas en train de lire quelque chose. Hein.
Non mais je me suis dit que ce serait bien que je fasse une synthèse des commentaires que j'avais reçus.
Très professionnel.
Le dernier épisode.
Genre t'en as eu tellement, synthèse. Tu t'es dit non mais il faut que je compile.
Mais écoutez, alors oui, contrairement à souvent, je reçois souvent des commentaires qui sont très cool et très marrants, etc. Je vous aime toutes et tous très fort, vous le savez. Mais... ces derniers temps, Kalindi, elle secoue la tête avec l'air désespéré.
Je te propose que tu fasses cette synthèse en slam, je vais mettre une musique inspirante derrière. Magneto.
Tu veux qu'elle te goume, toi?
Ah, j'aurais pu le faire en haïku, mais il aurait fallu que je me prépare. Non, mais en tout cas, vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à m'avoir écrit en disant « Aïda, j'ai regardé The Future Diary », cette télé-réalité japonaise de Netflix incroyable où des gens tombent amoureux de manière scriptée. Merci d'avoir été autant à regarder. Je pensais vraiment que c'était un truc cryptique que je faisais toute seule dans mon coin. En réalité, vous êtes au moins 12, ce qui est franchement un gros nombre de commentaires.
Franchement, go avoir des actions Netflix, hein, t'es influenceuse.
Ah ouais, non, mais là, ça y est, c'est le début de l'influence pour moi. Je me sens extrêmement saucée que vous ayez été autant à regarder. Et surtout, bah, venez, on en parle plus là. Moi, j'ai plein de théories, plein de choses à raconter sur ce truc. N'hésitez pas à continuer à venir dans mes DM pour en parler. Et merci d'avoir regardé cette drôle de reco et d'en avoir parlé avec moi. Voilà, c'était ma synthèse, qui n'était pas en slam.
Cal.
Très déçu.
Moi, j'ai pris un commentaire que m'a donné Mathis. Car maintenant, j'ai la flemme de regarder mes propres
messages. On est dans une forme d'assistanat total, quand même. Ton type, tu veux que je te l'invente?
Non, mais moi, depuis que j'ai rencontré Mathis, franchement, c'est trop bien parce qu'il fait tout à ma place. C'est faux.
Vous découvrirez bientôt que c'est moi le rire de Khalidi. Je la double.
Alors, c'est une personne qui s'appelle Emiléo et qui a répondu sur le compte de Laisse-moi kiffer. J'ai réécouté un vieil épusode. Alors, on appelle ça un épisode, en fait, Emiléo.
La personne agréable.
Alors, j'ai réécouté...
Lui, t'as repris le micro juste pour rire et j'ai trouvé ça adorable. C'est vraiment un geste de soutien très beau.
J'ai réécouté un vieil épisode de 2019 où vous annoncez « Kalindi fera Top Chef en 2022 ». Alors,
putain, mais en 2022.
Alors,
c'est vraiment qu'on vise plus loin dans la moitié parce qu'on pensait pas que le podcast il allait durer 3 ans.
C'est clair. Et nous sommes en 2022. Qu'en est-il de ces cours de cuisine du soir? Putain, j'ai dit ça un jour dans ma vie. Et du passage
gars,
de la
j'ai dit
télé
que je me mettais à la broderie le nombre de conneries qu'on raconte dans ce podcast.
Alors, mes cours du soir, ça n'est jamais arrivé.
Bon, à ta décharge, il y a eu le Covid entre-temps quand même.
Oui, non, mais j'aurais même
pas arrivé.
Non, mais ce serait de toute façon pas arrivé. Mais c'est vrai qu'un jour, j'ai dit que j'allais faire un CAP cuisine. Enfin, j'ai dit n'importe quoi. Donc, j'ai pas fait ça. Et je vais pas faire Top Chef, malheureusement pour Top Chef. Et aussi, mais en revanche, j'ai mon ex MDR. Quand je l'ai rencontré, Guillaume, bisous à toi, il écoute. Quand je l'ai rencontré, il savait pas faire cuire une soupe. J'ai passé le confinement avec lui. Donc, je lui ai appris à faire des trucs. aujourd'hui, lui, il fait un CAP cuisine à côté de sa vie d'assureur et je trouve ça classe parce que je suis là, grâce à moi, il va devenir cuisinier alors qu'il savait pas faire une soupe. C'est pas bien super
Bah, il transforme le monde, il est un peu assureur militant.
Bravo ouais,
c'était bien, c'était voilà. Bien placé.
Ça vous a pas vachement enthousiasmé alors moi je trouve que c'est très enthousiasmant, mais tant pis.
Si, c'est hyper enthousiasmant, j'étais en train d'enlever mes boucles d'oreilles parce qu'elles font du bruit.
Ok,
Non, mais c'est en vrai, premier doc, je suis là. C'est bien de savoir qu'on peut faire un CAP en plus de son travail, mais bien.
Non, mais là,
bien jour, j'aurai ma putain d'auberge.
J'ai influencé quelqu'un à ce point-là, enfin je veux dire, c'est super.
Quelqu'un qui ne savait pas faire cuire une soupe.
Non, mais.
C'est fou.
Toi aussi, t'es une influenceuse, Kaïni.
Bah, apparemment, elle le savait déjà. Tu vois, fière de moi, voilà.
Mais on peut quand même annoncer, oui. Sans trop s'engager sur le contenu précis de l'article, mais Top Chef commence le 16 février. Donc alors, vous écoutez cet épisode. Top Chef a commencé hier, ok? Donc vous allez sur mademoiselle.com et aujourd'hui, le 17, pas à 7h du matin, si vous écoutez cet épisode à 7h du matin, donc calmez-vous, nous on travaille pas encore, mais dans la journée du 17, le premier récap de Top Chef 2022 par Kalindi Rampfel sera en ligne sur mademoiselle.com, donc foncez sur mademoiselle.com.
Il y aura ça et sans doute un épisode du Seul Avis qui compte, le meilleur podcast cinéma, n'hésitez pas à vous abonner.
Le meilleur podcast cinéma sur Top Chef. C'est juste un
vous
podcast
connaissez
sur les
la famille.
Kalindi, écoutez. C'est de l'audiovisuel, merde, ça passe. Ah, tellement content de Top Chef. Alors, moi j'ai un commentaire de Pauline LNR qui est un commentaire très joli car il parle d'un bon épisode de Laisse-moi kiffer qui date mais que j'avais beaucoup aimé et d'une activité extrêmement mignonne que j'ai donc envie de refaire immédiatement. Pauline me dit « Coucou Mimi, hier soir, sans trop savoir pourquoi, j'ai commencé à lire mon livre à voix haute alors que mon copain était à côté de moi. Il s'est tourné et m'a regardé pendant 5 bonnes minutes finir mon chapitre et à la fin il m'a dit « Ça te dirait pas qu'on lise un livre ensemble et qu'on se fasse la lecture chacun à notre tour
oh. ?»
Et là, joie de ma personne, « Mais c'est dingue, Mimi en parlait dans LMK il y a pas si longtemps !» Vraiment, ça fait 2 ans et demi. ou il y a si longtemps, je ne sais plus. Il y a si longtemps. « Bien sûr que ça me dirait. Évidemment, il sait ce qu'est LMK et qui est Mimi. C'est mon podcast préféré pour m'endormir. Lui trouve que c'est pas le podcast idéal pour se coucher, mais passons.
Pas
honnêtement, je ne le trouve pas très berçant non plus. Je n'écouterai pas LMK pour m'endormir, mais à chacun son truc. Bisous à toute la team, et c'est là qu'on va pouvoir aider Pauline, puisqu'elle dit que celles et ceux qui ont des suggestions de livres à lire en couple se prononcent. J'adore les polars, thrillers et romans à l'eau de rose. Lui préfère la science-fiction. » Donc si jamais vous voulez envoyer à Pauline, @PaulineLNR, comme ça se prononce tout attaché, des idées de romans à lire en couple, allez-y. Moi, ma reco, Pauline, ce serait de te tourner, comme je l'ai fait moi, puisque j'ai commencé en lisant un manga La rivière à l'envers, qui est un bouquin plutôt jeunesse. Je pense que les bouquins jeunesse, c'est très cool à lire, parce que c'est vraiment fait pour être lu à des enfants et donc à l'oral.
C'est le truc de Mourlevat, non?
Oui, tout à fait.
C'est trop bien. C'est avec Anna et je sais plus quoi. Et Anna et c'est raconté à deux voix, non? C'est ça, il y a deux livres.
Oui, il y a une suite où c'est le point de vue d'Anna. Ah, je suis contente. Ah, vous embête pas plus, mais lisez La rivière à l'envers.
Je refais quand même.
Donc, je reco tout ce qui est un peu conte, un peu fable, tout ce qui est fait pour être oralisé, parce que je trouve que c'est ce qui est dur quand tu lis un roman plus classique à voix haute, c'est tout ce qui est voix, dialogue. Enfin, moi, je suis pas comédienne, quoi. Donc, là, j'ai commencé à lire American Gods à mon gars. Donc, un excellent bouquin de Neil Gaiman sur plein de divinités qui sont oubliés, enfin des divinités qu'on ne prie plus et qu'on et qui sont menacées par les nouvelles divinités qui sont la technologie, tout, l'argent, le capitalisme, tout ça. Et du coup, bah, plein de divinités qui risquent de disparaître puisque plus personne ne croit en elles se réunissent pour faire un genre de bataille spirituelle. C'est trop bien, c'est hyper bien écrit. Mais il y a beaucoup de dialogues et franchement, dès qu'il y a des dialogues, je suis là, pff, c'est quand même dur de jouer une divinité.
Tu fais les voix ou pas?
Non, je fais pas des voix. C'est quand même dur de jouer une divinité scandinave avec un marteau menaçant, tu vois. Je suis là, bon, au bout d'un moment, je n'ai pas le talent de Christian Stewart, quoi.
Est-ce qu'on ferait pas des live Twitch de type lecture nocturne?
On n'a pas les droits. On me l'a réclamé. On pourrait les faire et pas mettre de replay, mais en vrai, les livres sont quand même. On pourrait faire des trucs dans le domaine public, tu vois.
Moi, je clique, hein, des voix où tu fais les différentes voix des personnages.
Non,
je
ne ferais pas les voix, par contre.
Des réverbes sur des trucs, moi, je prends vraiment.
Donc voilà, je reco tout ce qui est conte, fable, tout ce qui est réfléchi pour être oralisé. Et la littérature un peu jeunesse, c'est bien pour commencer parce qu'en plus, c'est rarement des bouquins très longs. Et en vrai, là, on s'est lancé sur American Gods, on va jamais le finir, quoi, parce que ça prend 1000 fois plus longtemps de lire à voix haute que dans sa tête. Donc voilà, c'est ma reco. Si vous avez d'autres recos,
moi je vais vous raconter une super histoire.
Ah, l'anecdote de Kalindi.
Bon.
Il y a quelques temps, je mangeais chez ma mère. Et ma mère me dit oh, on t'embrasse, Mouniche. Non, la dernière fois, elle me dit c'est vraiment inaudible, laisse-moi kiffer, vous rigolez, c'est infernal, ça cancane, c'est infernal. Et elle me dit oh, ils sont bien verts et bons pour des goujats. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle dit? Parce que comme elle est à moitié zinzin, je lui dis qu'est-ce que tu dis?
Vraiment la paille la poutre.
Et je lui dis qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit mais tu connais pas les fables de La Fontaine? Et ça, c'est le rat et l'huître, je crois. Je lui dis, maman, je connais pas.
Personne connaît le rat et l'huître.
Elle me dit, c'est un scandale, t'es vraiment pas cultivée. Bon, ma mère, quoi. Et du coup, l'autre jour, je vais chez un libraire et j'achète du coup des Fables de La Fontaine.
Et
du coup, bah, pour combler mes lacunes. Et du coup, le soir. Je lis le rat et l'huître ou Atève texte avec cette histoire de goujat là.
On dirait une recette, le rat et l'huître.
C'est intermer que personnellement je ne commande pas au restaurant.
C'est clair. Et bref, je commence à les lire à mon mec et mon mec me fait meuf, on n'en connaît aucune. Fin de l'histoire, ça vous a plu?
L'histoire, c'est on est un culte en fait de La Fontaine.
C'est une bonne idée de lire ça.
On connaît tous les mêmes.
On a de quoi bitcher, genre. Oh là là, genre il est tellement profond, il avait tellement tout vu. 2022, il avait tout prédit.
Bah comme nous dans Laisse-moi kiffer, on avait même prédit que Kalindi serait dans Top Chef, c'est fou.
Ouais.
Alright, on a fait le tour des commentaires. J'ai oublié personne cette fois-ci. Ok, c'est l'heure, vous le savez, du message.
Boubou,
du message.
Réré,
du message.
Bourré.
Bonsoir, je suis un petit peu boubou, un petit peu réré. C'est un message boubou, c'est un message réré. Je sors d'un bête de concert, c'était à Light Tribe. C'était avec deux de mes meilleurs potes depuis des années. J'ai passé un super moment et là, je rentre seule à pied. J'ai un peu la voix cassée, mais c'est parce que j'ai une angine. Mais en tout cas, je rentre seule à pied parce que ben c'était un quartier qui est un peu éloigné de chez nous. J'ai 15 minutes à pied dans le quartier vite fait craignos de Grenoble. Grenoble représente bisous. Et bah, je voulais juste faire un petit message parce que bah, moi j'écoute votre podcast depuis le jour 1 et j'ai jamais arrêté. Je l'écoute toutes les semaines et il me fait super plaisir à chaque fois. Et bah, c'est une façon de dire merci et de participer à une des rubriques, une de ces énièmes rubriques qui se rajoutent à chaque fois. Mais c'est toujours un plaisir et du coup bah, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de jeudi. Plein 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 de bisous. Et PS, même si c'est pas diffusé le jour où Inch'Allah vous diffusez mon message, je voulais juste vous dire à quel point j'aime les chroniqueurs. Depuis le jour 1, comme je disais, ben Loulou et tous ces petits trucs et ces petites étapes de la vie. Kalindi, Mimi, putain Cédric, Camille, même si elle en fait plus partie. Fab, à l'époque où il était là. Marion, même si ça a duré 2 secondes. Puis en fait, tous les chroniqueurs qui sont rajoutés à chaque fois je suis un tout petit peu réticente et à chaque fois... Bah, je kiffe découvrir toutes les petites personnes qui viennent parler là-dedans. C'est vraiment toujours un petit bonheur. Et bah ouais, là je viens d'arriver chez moi et je me réécoute ce truc en disant j'ai oublié de dire merci à toutes les belles personnes qui font ce beau podcast. Alors merci beaucoup. Et sincèrement, ouais. Allez, je suis boubou, je peux retirer une énième fois, merci. Merci beaucoup, plein de bisous. Putain, j'ai oublié de citer Alix, alors qu'en vrai Alix... Mais Alix quoi. Alix, merci pour tout. Plein de bisous.
Trop mignon.
Mais bisous, on t'adore.
Oui, Alix Marty-Prout, on pense fort à toi.
Alex. Évidemment. Merci beaucoup pour cet adorable message.
C'est
boubou.
Trop mignon.
Et c'est une personne qui réussissait à suivre le fil de ses idées. Bravo,
oui,
franchement,
oui,
c'est impressionnant.
Je me suis dit, elle est... mais peut-être parce qu'elle était en concert et pas une soirée, donc t'as quand même autre chose à faire que juste picoler.
Ouais,
c'est
vrai que tu payes tes coups alors qu'en soirée à part, tu payes pas tes coups. Mais je me suis dit, tiens, cette personne est moins bourrée que la plupart des messages boubou, des messages rérés, des messages bourrés. Mais elle a effectivement une très jolie voix cassée.
Ah ouais, sexy.
Angine, à mon avis, si tu sors d'un concert et que t'es un peu bourré, c'est pas que à cause de l'angine que t'as la voix un peu éclatée, mais c'est pas grave, on ne juge pas. Et c'était très sensuel, ma foi. Ok, on va arrêter là cette intro parce qu'elle est déjà très longue. Donc, no vite bolos, no anecdote de star aujourd'hui, c'est pas grave, il y en aura la semaine prochaine, promis, au moins une des deux. Et on va passer tout simplement directement au kiff. Jingle.
Enfin, on passe au kiff. Il était temps, cette intro est trop longue. LMK, toute la mi. Va vous partager ses meilleures ondes.
Waouh, wow. Merci Valentin.
Ouais, merci.
Allez, c'est l'heure des kiffs et comme d'habitude, on commence avec toi, Mathis.
Bonsoir.
Bonsoir.
Sois Vementé.
Pardon.
Bonsoir Vementé, c'est incroyable. C'est une excellente vanne.
Je peux travailler tranquille.
Lundi, il a une fire aujourd'hui.
T'es payé pour m'humilier comme ça? Pour me salir? Alors, mon kiff d'aujourd'hui est un documentaire. Donc là, comme ça, c'est pas sexy et vous êtes en train de chercher finalement à skipper le passage où je parle.
Mais non,
donc,
tu parles toujours sexy, de trucs intello et tout le monde est content, regarde.
C'est vrai. Mais c'est
les
un
gens, ils ont lu Édouard Louis et tout.
C'est vrai. Vous êtes mignons. Vraiment, des fois, je perds espoir en l'humanité et puis je lis vos commentaires et vous me faites vraiment beaucoup du bien. Et c'est pas peu dire parce qu'il y a des gens qui collent des affiches de Zemmour au bas de chez moi et j'en peux plus.
Alors, ils sont dans tout Paris. Hein,
absolument. mais il y a quand même des coins un peu où ça tient
alors,
plus longtemps, on va dire.
Entre Stalingrad et Riquet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier plutôt populaire de Paris. Il y a parfois des gens qui prennent du crack. Il n'y a pas d'affiche de Zemmour, hein, mon gars. C'est vraiment pas là qu'on vient en coller. Hein.
Bon, ils sont pas fous. Ils ont peur.
Oui.
Bref, toujours est-il que du coup, j'ai regardé il y a assez longtemps un documentaire qu'en fait j'avais un peu découvert par hasard de Sébastien Lifshitz, qui à ce moment-là faisait beaucoup parler de lui parce que c'était la sortie de. Je crois qu'à ce moment-là c'était Petite Fille, tout simplement.
Non,
j'avais vu le cinéma.
Non,
non mais tu es dans ma vie.
Pardon.
Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui je suis.
On sait pas de quoi il parle, et t'es là. Non, je pense pas que c'était ça, non.
Ah, quand même, quand tu racontes le
Mais non, mais oui, non, mais d'accord.
Mais non, mais Petite Fille est sortie après.
Oui, c'est pour ça.
Oui, c'est ça. Bah, du coup, oui, c'était en 2020, parce que moi, je suis né hier, encore une fois. Donc, j'ai commencé à regarder des films il y a trois jours. C'est vachement bien, d'ailleurs, le cinéma. Continuez, hein.
Ah, ouais. Ah, bah, n'arrêtez pas de faire des films, c'est
ah,
super.
Ah, ouais, commencez, allez-y. Et donc, voilà. Donc, il y avait cette sortie de trucs, et je me disais, ok, ah, les films, ça me dit quelque chose et tout. Et en fait, il se trouve que j'avais déjà regardé un de ces films qui était Plein Sud, qui est d'ailleurs pas le plus réussi, mais qui était intéressant, qui était passé, je crois, sur Arte, parce qu'Arte a régulièrement des films gratuits sur son site, vous pouvez voir ça. Voilà, toujours est-il que du coup, j'avais découvert à ce moment-là un documentaire dont je vais vous parler aujourd'hui, qui n'est pas adolescente non plus, qui est le documentaire qui était sorti avant Petite Fille, où du coup, il filmait tout simplement des deux jeunes filles de leur 15 à je ne sais plus quel âge. En fait, on les voit globalement...
Je crois qu'elles sont au lycée, non ?
Ouais, elles sont la quatrième au bac, quoi, globalement, dans l'idée. Et elles sont toutes les deux très différentes, que ce soit leurs milieux sociaux, leurs aspirations, même leur façon d'être. Et puis, elles font pas face aux mêmes choses non plus. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir comment on se construit, etc. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a pas du tout de mépris dans la façon dont il filme. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je veux dire, il informe grâce aux personnes, mais c'est pas surplombant. Donc il y a un truc où vraiment on accède à l'intime des gens et c'est toujours fait avec beaucoup de tendresse. Et donc, avant Adolescente, il avait fait un film qui est moins connu, qui est aussi un documentaire et qui s'appelle Les Invisibles. Et Les Invisibles, ça parle des seniors LGBT qu'il a été trouvé avec un casting, enfin un travail de casting absolument monstrueux à travers la France. Je pense qu'en total, ils sont quoi, 7 ou oh, peut-être une petite dizaine, on va dire, parce qu'il y a des couples dedans. Et c'est des histoires absolument bouleversantes. Et en plus, on a vraiment des profils assez différents. On a beaucoup de gens qui sont en campagne, pour le coup. Donc déjà, ça fait du bien, parce qu'associer LGBT et ruralité, c'est pas un truc qui va de soi encore maintenant. Et c'est vrai que voir juste un vieil homme gay parisien,
ruralité,
c'est
la
pas...
campagne, je sais jamais, parce que comme dans ruralité il y a rue, je me dis toujours est-ce que...
Putain, non mais c'est tellement une phrase de meuf de Levallois, ruralité c'est bien la campagne hein.
La campagne c'est bien
le
les
moutons rural, oui, mais non mais c'est rural. Pas ça. Non mais attends, mais ça n'a rien à voir. Dans ruralité il y a rue, du coup à chaque fois je dois me concentrer, je me dis c'est pas ce qu'est la rue, c'est au contraire c'est plus la campagne.
Oui. Si jamais vous doutez, utilisez le moyen mnémotechnique de Kalindi, c'est pas la rue, c'est l'autre. Là où il n'y a pas de rue, mais des chemins de terre.
T'imagines si chaque fois qu'on entendait un mot, on se disait « Ah, dans ce mot, il y a une syllabe qui veut dire un autre truc. »
T'es là pour m'humilier sur mon français, c'est ça?
T'es là pour humilier la province en permanence, Kalindi.
Du coup, je précise que dans Les Invisibles, on ne parle pas des 1. Hein, voilà, rien à voir avec Attila. Vraiment rien. Dada. Je laisse Kalindi process cette blague. On prend tous un temps.
Parce que dedans, il y a invisible. Dans invisible, il y a un.
Voilà.
Vous l'aviez chez vous.
Chacun son rythme. Chacun son rythme.
Dur.
Et donc, ce documentaire très, très beau, en fait, donne la parole donc, à ces seniors-là. Donc, des fois, on les filme dans leur vie quotidienne, que ce soit en réunion de famille, à la ferme, parce qu'il y a un couple typiquement de lesbiennes qui sont adorables, qui, en fait, bossaient ensemble. Je sais plus si c'était dans une usine ou une boîte, etc. Et en fait, on les a mis à la porte parce que elles étaient ensemble, quoi. Donc c'était pas très très bien vu et elles étaient syndiquées, militantes, machin et tout. On les a quand même foutues dehors. Et du coup, elles ont décidé de s'installer au milieu de nulle part et d'ouvrir leur propre ferme. Et en fait, les gens, les locaux, les ont un peu regardé en mode ouais, il faut tenir 2 mois, mais bon, vas-y, on va les aider vite teuf. Parce qu'elles ont déménagé, elles disaient elles avaient rien, quoi. Elles sont vraiment arrivées, il y avait de l'herbe dans le salon, quoi. Et elles ont tout fait toutes seules. Il y en a une des deux qui est très bricoleuse et elles sont trop mimi. Et en fait, elles sont restées là et elles racontaient qu'elles ont fait des soirées dans les années, je sais pas, 70 avec plein d'autres meufs, probablement lesbiennes aussi, et vraiment des vraies soirées de sororité dans une ferme. Franchement, bravo. Et du coup, il y a plein de parcours comme ça où tu dis, il y a eu des vécus complètement improbables et complètement hors champ, en fait. Et c'est super intéressant que la caméra ramène la focale là-dessus et... Parfois c'est très gai, parfois évidemment c'est très dur. Puis évidemment, comme on parle de vieillesse, on parle aussi de plein d'autres thématiques, du fait d'être seul, du fait de qui est l'oubli en fait dans tout ça aussi. Ou des fois il y a des souvenirs qui leur échappent et il y a une séquence qui est très très bouleversante devant une gare comme ça avec une des personnes interrogées qui est en larmes en fait en essayant de se rappeler les choses et c'est extrêmement beau.
Les vieilles personnes qui pleurent, c'est touché.
Ça, et puis à côté, t'as des gens qui sont très très drôles aussi. Enfin, je pense à un petit couple, ça s'ouvre sur un petit couple de papy qui s'occupe de petits oiseaux, où ils les sauvent en fait quand ils sont un peu prématurés. Enfin, vraiment, ils sont trop trop mignons. Ça,
mais puis... stop, ah, sérieux. Mais,
vraiment, tu passes d'un profil à l'autre et à chaque fois, c'est une bonne surprise. Et en plus, tout ça, c'est intercalé par moments avec les images de manifs. Dans les années, début des années 70, avec notamment toutes les marches pour la légalisation de l'avortement. Donc, il y a une des personnes interrogées, une des petites mamies qui est une faiseuse d'anges et qui a mis des années à se rendre compte d'ailleurs qu'elle était lesbienne. Et en fait, à 40 ans, elle a commencé une nouvelle vie. Et il y en a tellement qui te parlent de ce temps perdu, en fait, de ne pas avoir pu, dans sa jeunesse, vivre librement.
On s'est rencontrés dans un rétroviseur.
Je ne sais pas exactement comment je suis redevenu homosexuel. D'ailleurs, je dois te dire que j'ai une femme et 5 enfants. Oh mon Dieu.
Alors donc, ma vie amoureuse, elle était, si tu veux, ballottée entre hommes et femmes, mais elle a été tout à fait heureuse puisque je me suis toujours adaptée à la fonction qu'il pouvait y avoir. Je pouvais faire la femme et l'homme.
Il faisait si beau, le soleil était si chaud, et nous si nus. Ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure.
Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer.
C'est contre nature ce qu'ils font quand même, hein.
Moi, je trouve ça dégoûtant.
Alors, les mal baisés, oui, oui. On est mal baisés, oui, oui. T'as trouvé.
J'ai eu une période où je m'habillais comme une folle, mais le souvenir que j'en ai, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libérée.
Et puis parce qu'on était quand même des marginaux, c'est-à-dire qu'on était... La marginalité nous rendait libres.
Et puis j'avais peur de ça aussi, mais il y a une personne bisexuelle et qui parle de bisexualité et qui est trop mignon. D'ailleurs, c'est un petit papy qui est avec ses bichettes et tout le long, à chaque fois qu'on le voit, il fait biche, 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 avec une petite voix aiguë. Et franchement,
est-ce que c'est toi dans 40 ans du coup ?
Absolument pas, je ne supporte pas les araignées, les bêtes, tout ça. Je serai en
la
vie.
La ruralité n'est donc pas ton domaine.
Ah non, et pourtant je connais. Hein, voilà.
Je sens vraiment que j'aurais pas dû dire ça. J'ai voulu me montrer un petit peu. Voilà. Comment on dit, c'est quoi l'adjectif ? Putain, j'en ai pas, voilà, vulnérabilité. Ouais. Et on m'y reprendra plus.
Je dis pas que le titre de cet épisode sera la ruralité, c'est bien la campagne ou pas, mais c'est pas impossible.
Tu remarqueras que dans vulnérabilité, il y a érable, et ça n'a rien à voir. Mais rien du tout.
Non, c'est drôle, c'est drôle. C'est drôle, c'est mieux que les 1. C'est mieux, c'est plus drôle.
Les 1, c'était super, c'est juste que t'as mis 10 minutes à l'avoir.
Attila, il va nous répondre en commentaire. Voilà, et donc voilà, donc ce documentaire, je l'ai re-regardé récemment, parce qu'en fait, du coup, il y a quelques jours, il faut savoir que j'ai pris un abonnement au OCS pour regarder Euphoria, comme tout le monde, parce que j'ai pas de personnalité, mais en même temps, c'est très bien, donc allez-y. Et donc, je me suis rendu compte au passage qu'ils avaient pas mal de films, mais leurs films ne restent pas très longtemps, ce qui fait que j'ai regardé Adolescente, que j'avais encore, du coup, jamais vu. J'avais regardé Petite Fille il y a quelques semaines, quand même, pour rattraper un peu. Et donc, il y avait cet autre film de Sébastien Lifshitz, qui a vraiment un nom qui sonne comme Pchit, ce qui n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Et donc, il y avait Les Invisibles qui étaient proposés. Et je ne sais pas si ce sera encore disponible au moment de la sortie de l'épisode. Donc voilà, peut-être que je travaille votre Fear of Missing Out. Work on it, allez voir un psy, je ne sais pas.
dernier conseil de ceux qui veulent aller voir un psy, écoutez.
Non, mais je pense que vous pouvez trouver le film.
Faux mot sur le documentaire de
C'est un documentaire qui est vraiment super important, qui est super rare et qui, par ailleurs, est très apaisant. Je trouve qu'on en sort à la fois très ému, mais il y a un truc un peu serein de se dire ok, en fait, ces gens, c'est une vie, quoi. Ils se sont débrouillés, ils se sont dépatouillés pour, quel que soit leur environnement, en faire la chose la plus commode possible dans laquelle ils pouvaient être heureux. Et je trouve ça très rassurant. Enfin, il y a un côté très rassurant de se dire ok, malgré ça, ils ont réussi à être heureux. Et je trouve ça très touchant et très, très beau. Petite note pour celles et ceux qui sont intéressés pour regarder le documentaire. Il y a un film qui est sorti récemment et qui porte le même nom, à ne pas confondre. Donc regardez bien Les Invisibles de Sébastien Lifshitz. Enfin, peut-être que le film est très bien, mais je ne l'ai pas vu. Et non pas le film de fiction qui est sorti et qui parle de femmes à la rue, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
Autre sujet très intéressant.
Autre sujet très intéressant.
Moins de petites chèvres.
Peut-être moins de petites chèvres potentiellement. Donc ça dépend de votre mood. Voilà, si vous êtes en mood bibiche, Les Invisibles de Sébastien Lifshitz. Et voilà.
Trop cool.
Ça a l'air trop bien. J'espère qu'il est encore sur OCS.
Il y a en tout cas quelques jours. Là, au moment où on l'enregistre, il y a encore. Donc peut-être tu peux utiliser ton privilège de j'ai une semaine d'avance.
Je le regarderai.
Mais ouais, je crois qu'il y avait genre 10 jours au moment où je l'ai regardé et ça fait genre 2 jours, donc c'est short. Voilà.
All right. Mais bon, il va être, je pense, régulièrement dispo de catalogue en catalogue.
Oui. Ouais, ouais.
Suivez-le, au pire, suivez le réel sur les réseaux comme ça, et vous serez au courant.
Exactement.
Mais c'est hyper intéressant. Je vais pas dire des infos trop précises car je ne les ai pas, la moitié des infos, bien sûr, et que je voudrais pas dire de conneries que j'ai suivies de loin, mais je sais qu'il y avait quand même une importante mobilisation en France de la communauté LGBT il y a quelques années pour l'ouverture d'un centre d'archives LGBTI à Paris. Notamment Didier Lestrade, qui est un pionnier, enfin, une des grandes figures de la lutte contre l'homophobie, entre autres, et qui est pour le coup actif depuis des décennies et militant depuis des décennies, donc il fait partie de ces personnes homo un peu plus âgées, qu'on voit pas forcément beaucoup quand on pense aux communautés LGBT.
C'est le fondateur d'Act Up Paris, si je dis
tout
pas de bêtises.
Ouais. Tout à fait. Et donc lui, il a, je l'ai vu notamment via lui, cette mobilisation. Je crois que le centre a fini par ouvrir. Donc on a un centre d'archives LGBT à Paris. Et toute la logique, c'était en fait, notre histoire, elle n'est pas connue, elle n'est pas enseignée. Elle est souvent cachée parce que c'est à la fois, pour la société française, l'obligation de se réconcilier avec le fait que, en fait, il y a des gens encore vivants qui ont été encore plus discriminés que maintenant et qui ont été légalement et physiquement et verbalement discriminés par leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, qui est une forme de... Voilà, il faut regarder son passé en face, is ok, mais il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Le grand roman national de l'égalité républicaine a quand même deux trois pages cornées. Et parce
oh
que...
là là, mais oh là
oh
là,
je voulais lâcher
mais
mon
stop
gars.
Stop,
je suis ready pour les débats pour la présidentielle. Appelez-moi plus Jadas, let's go. Je vais venir donner des petits coups de pied dans la fourmilière.
Non mais c'est incroyable.
Parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura Poutou, invitez-moi à la place. Écoutez,
entre on passe quand même de moi qui connais pas le mot ruralité aux pages cornées de
national.
Je sais pas quoi du roman national.
C'est toi mon inspiration. Tu sais, tu parles toujours si bien. Donc pour une fois, j'y arrive. Bref, et du coup, c'est aussi un truc, une réflexion qu'on se fait souvent pour le féminisme. On n'a pas d'histoire du féminisme à l'école, enfin très peu. Mmh. On a énormément de figures des droits des femmes qu'on ne connaît pas et de moments importants de l'égalité homme-femme qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas beaucoup enseignés. Et c'est pareil pour les communautés LGBT. Donc je trouve que c'est très bien ce genre de format où on montre des personnes LGBT âgées, ce qui est rare, rurales comme tu dis, ce qui est rare. Et en fait, elles racontent leur vécu et la réalité de leur vécu dans tous les sens du terme, à la fois le bon et le mauvais. Et c'est hyper précieux parce qu'en fait, si on raconte pas ces histoires, les gens vont, dans une génération, on n'aura plus les paroles
avec
de ces
les gens.
Gens,
bien sûr.
Et je pense que c'est important, même pour les jeunes générations, d'avoir accès à quel point il y avait des discriminations, qu'est-ce qu'il y a encore comme discrimination, mais de savoir, en fait, toute cette histoire, elle est encore vivante, quoi, elle est encore vivace, et du coup, c'est important de la raconter tant que les gens sont là pour le faire.
Ouais, c'est clair. Et puis, il y a des choses qui n'ont rien perdu de leur... j'allais dire de leur violence, mais presque dans un sens positif, dans le sens leur pertinence, on va dire. Quand tu vois les images d'archives, de mobilisation de meufs, tu dis mais qu'est-ce qu'elles étaient inventives, quoi. Tu vois des militantes lesbiennes des années 70, mais elles sont trop drôles. Et il y a des slogans qui sont encore maintenant dérangeants pour beaucoup de gens, je pense, qu'ils sont encore très subversifs, et ça c'est très chouette à constater. Et pendant que j'y pense sur la question des archives LGBT, pour celles et ceux qui sont à Paris ou qui peuvent y passer de temps en temps, je crois que c'est jusqu'à début mars, il y a une exposition sur la déportation des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc moi je l'ai fait pour un date, donc voilà, si vous êtes un peu chelou.
Oh, c'est vraiment dans le fun.
Je
n'en
peux plus de watch.
Je suis la pire personne. Et sachant que je lui ai proposé...
Franchement, dater des sociologues, c'est toujours...
je lui ai proposé un film une semaine après. C'était un film qui parlait de ça. C'était l'être personne.
Mais il n'y a que lui que ça fait rire.
Le mec est monomaniaque.
C'est l'être personne.
Cela dit, j'ai déjà fait un date avec un Erasmus allemand. C'est important pour le contexte.
Ah.
Au musée de la résistance et de la déportation.
Waouh.
On ne s'est pas chopé. Mais on a eu une très bonne note à notre exposé.
Et ben voilà.
Toujours plus de conseils pour la Saint-Valentin dans l'ASMA qui fait.
Et sur la vieillesse LGBT, je finis là-dessus et après j'arrête de vous embêter parce que je suis bavard.
Mais non, ah bon ?
Tu es désagréable aujourd'hui, Kalindi. D'habitude, je fais des efforts, mais là, je ne
j'ai
peux plus.
J'ai mal pris les invisibles.
Je ne peux plus. La coupe est pleine.
Allez, on avance.
J'avais travaillé sur un article à l'époque où je voulais rentrer dans une école de journalisme qui m'a refusé parce qu'ils n'ont pas de goût, ou que j'étais mauvais, on ne sait pas. Et c'était sur la vieillesse LGBT, justement, et la maison de retraite comme dernier placard pour beaucoup de seniors, parce qu'en fait, globalement, quand t'arrives et que t'es qu'avec des vieux culs qui sont hétéros et qui plus est potentiellement intolérants, bah t'es tout seul, tu t'isoles, tu vas cacher le portrait de ton cum dans ta chambre ou de ta meuf, qui parfois est décédée, tu vois, et tu vas même pas ouvrir ta gueule là-dessus juste parce que tu sais que tu vas te faire shamer ou isoler du groupe et... Et j'ai trouvé ça tellement triste. Et du coup, il y avait un peu deux solutions qui se proposaient à ça. Il y a le travail d'un gars qui s'appelle Stéphane Sauvé et qui avait créé un centre communautaire hétéro-friendly, ce que j'avais trouvé très drôle, où vraiment, il voulait créer une maison, alternative, quoi, plus une coloc qu'une maison de retraite. Mmh. Alors évidemment, ça fonctionne sur des gens qui sont en forme, où on n'a pas besoin d'établissement médicalisé. Donc, c'était des gens relativement autonomes. Mais je trouvais l'initiative intéressante. Et par contre, de l'autre côté, du côté plus universaliste, c'est-à-dire on va changer le modèle existant, il y avait l'association Grey Pride qui voulait faire un label. Grey Pride, qui est l'association de Francis Carrier, qui était un ancien de AIDS. Et voilà, donc vous pouvez regarder tout ce qui se fait sur ces sujets-là. Il y a vraiment plein d'initiatives et il y a aussi beaucoup d'initiatives transgénérationnelles et je pense qu'il y a un vrai truc à faire là-dessus. Et de mon côté, j'aimerais bien me creuser la question. Donc si vous avez des suggestions, des retours d'expérience, d'assaut, de trucs, franchement, je suis preneur, envoyez-moi des trucs. Ça m'intéresse beaucoup ce sujet.
Et pour boucler, on vous met dans la description le lien d'un très bon article de Maëlle, rédactrice société chez Mademoiselle, qui a fait justement un papier sur les lesbiennes en milieu rural, enfin les femmes qui aiment les femmes en milieu rural, et la difficulté de dater, déjà quand on est une femme à la campagne de base, mais quand on est une femme qui aime les femmes à la campagne, plus évidemment le côté, voilà, le regard des voisins, le regard des communautés rurales quand tu t'installes avec deux femmes, quoi, avec une femme. Voilà, passionnant article qui est dans la description. Aïda, what is your kiff? Bonjour. Je le sais déjà et je suis ravie.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Moi, cette semaine, en tant que caution intellectuelle de ce podcast, j'ai décidé de vous parler de Pokémon.
Pour une fois que c'est pas moi ou Cédric qui parle de jeux vidéo, je suis ravie.
Mais oui, parce qu'en fait, alors, je suis pas quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo, principalement parce que j'aime pas perdre et que les jeux vidéo, ça demande un truc de... Tu sais, faut jouer 5 heures pour finir par battre un mec et tout.
Moi, il y a plein de jeux où tu peux pas perdre.
Bah, du coup, je joue qu'à ça, normalement.
Ok.
Les Sims
par exemple.
Non, mais tu peux perdre aux Sims aussi, mais enfin, j'ai pas la même notion de perdre.
Voilà, c'est toi qui le vis comme un échec.
Pourquoi tu mets de la performance là où il y en a pas, genre ?
Écoute, je suis fille unique. Ma mère m'a laissé gagner au jeu de toute mon existence. La première fois que j'ai joué à un jeu, j'ai gagné. Et après, ça s'est jamais arrêté.
Oh là
jusqu'à
là.
Ce que je devienne adulte.
J'ai une ex qui a appris récemment que son grand-père cachait 7 ou 8 fèves dans la galette des rois pour être sûr que chaque année, elle l'ait. Et toute la famille s'étouffait en faisant semblant de ne pas la voir.
Ne mentez pas trop à vos enfants quand même.
Pour qu'elle l'ait.
Et une voilà. Saine compétition, voilà. Un sain challenge, c'est bien.
Donc moi, je suis juste en dessous de... On a mis 8 fèves dans la galette, puisqu'on n'en mettait pas 8, on me la donnait juste pour que je l'aie. Ce qui aurait pu me créer des névroses, et en fait, ça va. À part que
tu peux pas jouer aux Sims parce que ça t'énerve de perdre aux Sims.
Ouais, mais je crois que ma mère s'est dit, ok, c'était pas une mauvaise idée, parce que quand elle m'a offert ma première console et qu'elle m'a vu jeter ma manette au bout de 15 minutes parce que j'avais perdu 2 fois et arrêté de jouer, elle s'est dit, ok, stylé, j'aurais pas à débrancher la console pour lui dire de venir manger ou je sais pas quoi. Donc voilà, tous les 2 ans à peu près, il y a un jeu qui me sort de, je sais pas, de ma petite torpeur jeu vidéo et qui me dit, allez Aïda, t'as changé, tu vas accepter maintenant de perdre.
Je suis une gameuse maintenant.
Tu vas finir un jeu.
Waouh, parce que j'ai fini très peu de jeux en vrai. Moi je ne juge pas les gens qui finissent pas les jeux, vraiment je suis là, c'est quand même très long ces histoires.
Ouais c'est ça, et puis bon, j'aime pas perdre mais j'ai pas de problème avec pas finir les jeux.
Tout plutôt que de perdre.
Du coup, ça va. Récemment, j'avais été happée par Undertale, qui est pourtant un jeu extrêmement difficile, que j'avais fini dans la souffrance et tout, parce qu'au bout d'un moment, c'était devenu un truc d'ego, puis c'était le confinement, bref.
C'est pas du tout sain, ta logique.
J'adore.
C'est un loisir, Mathis. On n'est pas obligé.
C'est le fan, ok.
D'avoir des hobbies sains. On peut aussi catharsiser, ma foi, ses problèmes avec la performance, l'échec et la victoire par le jeu vidéo. Ce qui est ce que je fais de temps en temps. Et là, je sais pas, je me suis tapé une phase où j'étais en mode « Ah tiens, et si j'achetais le dernier jeu Pokémon ?» Sachant que j'ai pas joué à un truc de la franchise Pokémon depuis mes 9 ans.
La bonne nouvelle, c'est que c'est le même jeu depuis, donc...
Ouais, voilà, no je crois offense, que ça va pas trop changer.
Je sais que celui-là, il y a des diffs et tout, j'imagine déjà les Pokéfans, là, dans les... Calmez-vous. Mais on va pas se mentir, c'est pas la franchise qui se renouvelle le plus, puisque ce que les gens veulent dans un Pokémon, c'est aller chasser des putains de Pokémon et battre la Ligue. Et du coup, bah, tous les jeux Pokémon, c'est aller chasser encore plus de Pokémon et battre la Ligue globalement. Mais c'est des mécaniques qui restent... c'est comme les Sims, quoi.
Sachant que dans celui-ci, il n'y a pas de Ligue. Et franchement, j'étais déçue. J'étais en mode, quoi ? Ils n'ont pas remis le même truc que ce qu'ils mettent tous les ans depuis 2002 ? Et bref, en plus, quand je m'ai choisi Skiff, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? Parce que je ne vais rien apprendre à personne, vu que effectivement Pokémon n'a pas changé.
J'ai tout à apprendre, tu sais, sur Pokémon.
Pareil.
Bah écoute, le concept c'est qu'il y a des Pokémon, tu es un bonhomme, tu vas attraper
ça,
des Pokémon.
Avec sa truc rouge là.
Avec la Pokéball.
La Pokéball, ouais.
Avec la chanson Ah, le meilleur dresseur, tout ça.
C'était la meilleure imitation du générique de Pokémon. Tout à fait.
Merci.
Je sais qu'il s'appelle Sacha, le type.
Oui,
mais là, mais nous tous, on a 200% des infos, c'est incroyable. Il y a un truc rouge.
Je sais qu'il y a un
meilleur
gars,
dresseur, et
c'est un artichaut, mais en fait, c'est un poireau, je sais ça.
Alors, il y a qu'un artichaut qui est un Pokémon qui tient, non pas un poireau, mais une cébette, mais effectivement, ça ne ressemble pas du tout à un artichaut. Et qui, du coup, bah, c'est un grand mystère. Pourquoi qu'un artichaut s'appelle qu'un artichaut alors qu'il tient de toute évidence un poireau ou une cébette, si on veut être précis. Et en fait, il y a. Bref, je suis en train de digresser.
Non, mais c'est ça, non, mais je suis pas fait. J'ai pas inventé cette histoire de poireau.
Hyper intéressante sur la traduction française des noms de Pokémon.
Ouais, c'est
vrai,
ça, en fait.
Parce que les 150 premiers Pokémon, c'est un gars qui a tout traduit. Et il avait plein d'interviews et tout, cherché traduction français Pokémon. Il y a plein d'interviews de lui. Et il explique pourquoi il a choisi Calartichaut, comment il a choisi. En fait, c'est que des jeux de mots, les noms de Pokémon, mais des fois à quatre tiroirs différents dans le même nom. Donc c'est incroyable. C'est, si vous aimez bien un peu jouer avec les mots, allez regarder des interviews ou lire des interviews du mec qui a nommé les Pokémon en français. C'est trop bien. Et vous saurez pourquoi qu'un artichaut s'appelle qu'un artichaut alors qu'il n'a pas d'artichaut.
Franchement, c'est intéressant.
J'aurais trop aimé faire ce métier. N'hésitez pas, Nintendo, Pokémon, si vous cherchez quelqu'un pour traduire les futurs noms de futurs Pokémon. J'aime les jeux de mots, même si c'est pas des jeux de mots de type invisible comme ça que Mathis fait. Les miens sont plus cons, donc ça fera des meilleurs noms de Pokémon.
Pourquoi tu te mesures à moi ? Pourquoi tu fais une concurrence là où j'en ai pas mis ?
Parce qu'elle est complète, elle a dit. Donc, Pokémon Arceus. Attendez, on se perd. Pokémon Arceus.
On se perd.
Qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport aux autres Pokémon ? Enfin, par rapport aux Pokémon que toi, tu connais.
Oui, donc version bleue et version rouge, globalement.
Voilà.
Donc, je sais pas. Je peux pas comparer avec les autres. Ce qu'il a de spécial, c'est que... D'après ce que j'ai vu sur YouTube qui m'a donné envie d'acheter ce jeu, c'est que c'est un monde ouvert où du coup tu te balades sur une espèce de grande map avec des paysages très jolis et tout, c'est vachement bien fait. Ça change de l'écran de ma Game Boy Color des années 90-2000 là, où tu te promènes et puis tu vois tes petits Pokémon dans l'herbe et tout. T'as un peu le choix de ceux que t'attaques et ceux que t'attrapes. Je crois que dans les premiers jeux t'étais un peu tout le temps en mode « Ah, il y a un Pokémon qui m'attaque, je suis obligée de me défendre sinon je perds ». Je me souviens plus très bien, c'était
ouais,
il y a vraiment beaucoup
tu pouvais fuir le combat, mais pas tout le temps. Et tu te fais aggro... Pokémon, c'est vraiment un jeu où tu te fais aggro en permanence, soit
ça
par des Pokémon
quoi,
sauvages... Aggro, pardon, tu te fais agresser. Genre, tu peux pas marcher tranquillement, comme dans putain de Zelda Breath of the Wild, là, il y a tant des connards qui te font chier.
Tu veux dire marchaud ?
Quoi ?
Quoi ?
Non, excuse-moi, parce qu'en fait, j'ai du mal à me rappeler. C'est quoi le mot
agro ?
Ah ouais, agressé, oui, agro, agressé. Marchaud, marché.
Donc,
mais je t'expliquerai,
ouais,
t'inquiète.
Sur l'agroalimentaire.
Waouh !
Je savais pas.
Effectivement, tu pouvais parfois fuir le combat, parfois non. Là, c'est un jeu en format open world, sachant que le précédent Pokémon, qui était épée bouclier, avait déjà quelque peu envisagé une forme d'open world, mais qui était assez light. Donc, open world, c'est un monde ouvert. Là où Pokémon, traditionnellement, c'est quand même un vieux jeu, hein. C'est tu vas de zone en zone, mais t'es dans des parcours très délimités, quoi. T'as une
c'est
route, l'écran il est vertical, tu vas du bas vers le haut. De là, tu peux aller à gauche, à droite, mais t'es très balisé et tu peux pas te dire. Enfin, en gros, t'as une ville A, ville B. Entre les deux, t'as deux zones qui sont le trajet et tu peux pas te dire, tiens, je vais aller voir à l'est ce qu'il y a. C'est juste, c'est la route. Là, c'est un open world, donc dans l'idée, tu peux te tourner vers où tu veux et avancer vers où tu veux et rencontrer les Pokémon que tu veux. Tu n'as pas de balise dans ton exploration.
Exactement. T'es vachement libre dans ta manière de jouer. Tu peux choisir de respecter le scénario qui a été préétabli ou du coup, t'es dans un truc de très. Enfin... Voilà, on te donne une mission, tu rencontres quelqu'un, t'as des petites quêtes principales et des quêtes secondaires, mais déjà rien que ça en fait, c'est que t'en as énormément. Moi, je me balade quand je joue et je croise 15 personnes qui sont là. Hey, tu peux aller me chercher ça et tout. Je le fais jamais parce que j'aime pas qu'on me dise quoi faire.
Mais pourquoi je veux jouer vidéo si tu veux pas faire les quêtes, putain?
Mais je sais pas, Mimi, c'est pour ça que je joue jamais. Et donc, t'as plein d'options. Évidemment, t'as une espèce de grande aventure principale qui est. Je sais même pas comment la résumer. C'est une quête. Il y a pas de ligue Pokémon, donc le but c'est pas de devenir le meilleur dresseur et tout.
C'est moins baston celui-là, non?
C'est beaucoup moins baston.
Exploration capture.
Avec une idée de, en fait, tu joues un personnage qui est plus un dresseur Pokémon, mais qui est un chercheur. On voit qu'il y a une petite évolution.
Comment ça se dit que Mabille, les combats de chiens, c'est pas très vendeur en 2022, quoi.
Exactement.
Parce que c'est un peu ça Pokémon à la base. Tu captures des animaux sauvages pour les faire se taper entre eux.
Là, c'est
mais
plus.
Mais le Pokémon est heureux d'être avec son dresseur.
Oui, bien oui. sûr, dans une boule, dans sa poche. Et quand il sort, c'est que pour se battre. Après, quand il gagne, il gagne de l'argent.
Ouais, vu comme ça, c'est creepy, oui.
Ouais. Ouais, le concept est un peu creepy. Là, ils ont essayé de le décreepiser un peu. Ça marche. Ça va. C'est pas weird de jouer et de se dire « Ah tiens, je vais capturer des trucs pour les faire se battre ensemble » puisque tu es un chercheur et tu attrapes des Pokémon pour faire avancer la recherche. On précise souvent « Ah, les Pokémon, ils sont super heureux dans leur Pokéball, c'est cool. » J'ai pas encore fini le jeu, donc il y a peut-être une morale à la fin parce que t'as souvent des dilemmes moraux. Est-ce que vraiment on est obligé de faire ça? Est-ce qu'il faut vraiment aller calmer ce Pokémon qui est au sommet de la montagne alors qu'un Pokémon enragé au sommet d'une montagne où il n'y a personne? Est-ce que vraiment c'est un Pokémon enragé, tu vois?
Mais c'est des vrais dilemmes que le jeu te pose.
C'est des questions que le jeu pose. Okay. Après, vu que c'est un open world, tu peux choisir de pas faire ce chemin-là du jeu, donc pas faire la quête principale et dire bah ouais, c'est vrai, j'ai envie de le laisser tranquille dans son coin et d'aller chiller dans les prés.
Mais tu finiras pas le jeu.
Et non. Tu peux aussi choisir de faire ça. Bref, je ne sais pas quelle est la conclusion puisque je n'ai pas encore fini le jeu. Que je pense que je finirai jamais parce que quand j'ai choisi Skiff hier, après j'ai joué, j'ai perdu et je me suis dit vas-y, ça me saoule. Mais contre le dernier boss.
Mais que c'est parce que tu t'as dit qu'il y a moins de bagarres. Moi j'ai pas joué à celui-là, j'ai juste vu quelques let's play.
Il y a moins de bagarres, tu vois, c'est
pas
comme
avant.
Il y a quand
même des boss et de la bagarre et tout.
Bah en fait, il y a des Pokémon enragés que tu dois aller calmer en les battant.
Ok.
En les battant ?
En envoyant tes Pokémon se battre contre
eux. Battant contre eux, pas en les battant.
Mais ça les tue pas, tu vois, c'est juste qu'ils sont KO et après tu les emmènes au centre Pokémon où ils peuvent être soignés. Et...
C'est ça, tu
t'es
les.
T'es jamais avec un cadavre de Pokémon en mode bon, bah on va faire un rôti, tu vois, c'est pas aussi drôle que ça.
Non, ça va, ils survivent. Tu vois pas de cadavre de Pokémon dans l'open world.
La semaine dernière, on soignait des pigeons, là on détruit des animaux imaginaires,
c'est clair.
Je suis désolé, on a rétrogradé.
Ça s'appelle le jeu
c'est
vidéo.
Clair.
Ah là là.
Ah, les jeux vidéo et les jeunes, c'est vraiment terrible.
Terrible.
Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas quelle sera la chute de ce jeu vidéo, mais en vrai, c'est quand même un peu un kiff de se dire « Ah, j'ai repris un jeu et je suis excitée de jouer à un truc ».
Bah,
la console qu'on possède, qui est une Switch, c'est pas tellement la mienne, c'est celle de mon mec qui joue un peu plus que moi. Moi, vraiment, une fois par an, je suis là « Ah, et si je jouais ?» Et après, vous connaissez la chute de cette histoire, je perds, je la jette, je pars faire autre chose et faire des pompes pour me calmer. Non, c'est pas vrai, je fais pas ça, mais ce serait grave drôle.
T'es cette personne.
Ce serait super marrant. Non, je vais juste faire autre chose parce que ça m'a saoulée. Et là, vraiment, ça m'a happée. Pendant 15 jours, j'étais vraiment en mode, mais ma vie sociale n'existe plus. J'ai plus envie, tu vois, de sortir boire des coups. J'ai envie de rester chez moi.
Tu pendant le dry January, ça aurait été plus simple de pas
c'est
sortir
clair.
Boire des coups.
Mais je crois qu'il était pas encore sorti.
Non, il était pas sorti, il vient de sortir. T'as raison. Tant pis. Franchement, Nintendo, la prochaine fois, sortez vos jeux le 31 décembre pour aider tous les gens qui font le dry January à bien rester chez eux.
Ouais, vraiment, de manière générale, faites ça mieux.
Heureusement qu'on est là pour apprendre à Nintendo à faire son métier quand même.
Hashtag statut visé.
Non mais après je suis très contente.
Je voyais bien les mecs. Oh non, vos LMK a pas aimé.
Oh non, on change Michel.
Bref, je suis très contente, ça va me faire économiser de l'argent. C'est très cool d'être excitée par un truc. Des fois je suis en train de boire des coups et je me dis oh là là, je suis en train de boire un verre mais peut-être je serais mieux chez moi en train de jouer à Pokémon. No offense à tous les gens à qui j'ai bu des coups ces dernières semaines.
Est-ce que c'est pour ça que quand je t'ai proposé un verre ce soir t'as dit non? Est-ce que c'est parce que t'as juste envie de jouer à Pokémon?
Non, c'est parce que ce soir je dois boire un verre avec mon ami Dimitri qui s'en va vivre à Madrid ce dimanche.
Très bien.
C'est la seule personne pour qui j'ai accepté de lâcher ma Switch et d'aller jouer dehors comme ma mère me le demandait.
Tu m'as proposé d'aller boire un verre cette semaine, je rappelle.
Eh bah tu vois, t'as bien fait de dire non parce que j'avais déjà un truc en fait. Merci.
Avec Aïda, ça fait vraiment un an qu'on se dit on va boire un coup cette semaine et on n'y est jamais allé.
Mais on a dit
jeudi
prochain.
Ça fait quoi, 4 ans que je suis censée venir déjeuner chez toi?
Combien de fois je vais entendre parler, Mimi ?
On est censé aller faire un resto ensemble. Non, mais je suis aussi en tort que toi. Je précise quand même, parce que ça coûte un peu cher, les jeux Switch, ça coûte toujours 60 balles. Il faut quand même savoir, pour celles et ceux qui ont un peu plus que toi l'habitude des jeux vidéo et des Pokémon, qu'il est quand même... pas beau ce jeu, il est techniquement très en dessous de ce que la Switch peut faire. Il y a un peu un côté, moi personnellement en tant que joueuse, j'ai un peu l'impression d'un côté, de toute façon vous allez l'acheter, vous allez y jouer ces Pokémon, donc on n'a pas besoin de faire des efforts. Alors, en vrai, pour un jeu qui est sorti plein tarif version finale, il y a des bugs quoi, il y a des brins d'herbe qui disparaissent, il y a des arbres qui apparaissent d'un coup, enfin c'est vraiment, la Switch, Breath of the Wild existe quoi, la Switch peut faire mieux que ça.
Oui.
Donc c'est regarder genre le trailer du jeu ou un petit gameplay avant de foutre 60 balles dedans quoi.
Voilà. C'est ça, c'est pas
Breath
la plus belle chose.
Breath of the Wild, ça a l'air super.
C'est trop bien.
J'avais regardé dans la bande-annonce il y a quelques temps, j'étais là, waouh, moi
ça
me plairait.
Ça c'est poétique et tout, après il y a de la bagarre un peu.
Mais moi j'adore la bagarre.
Ah bah super.
Moi j'ai joué à un moment donné, j'ai joué à un jeu où à chaque fois t'es sur un ring avec un autre gars et moi j'étais déguisée en gars qui se retourne à l'envers.
Quoi ?
Et ouais, Tekken. Non mais ça va être flou. Hein ?
Tekken 3 ?
Mais pas du tout. Mais non mais des créatures sur un ring et moi j'étais la créature à l'envers.
Les Muppets ?
Tu racontes très mal. Attendez, il faut qu'on avance parce que c'est déjà
C'est quel pigeon la créature à l'envers ?
Est-ce qu'on a fini sur
Pokémon? Oui, on a fini avec mon kiff parce que vraiment j'ai aucune compétence pour parler de jeux vidéo. Bah, sachez juste
super,
que
c'est
j'aime
pas
bien.
Grave, c'est ton kiff. Mais oui, c'est vachement bien.
Ça m'a donné l'occasion de parler de moi.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Mimi, d'être en backup.
Kalindi, quel est ton
kiff? Oh là là! Je suis trop contente de vous parler de ça parce que je reviens pas en vrai que ça n'avait pas été mon kiff.
J'avoue.
Mais en fait, parce qu'il y a eu le confinement, tout ça. C'est puis vrai. Pendant le confinement, j'ai fait des pompes. Alors j'ai dit que mon plaisir c'était de faire des pompes. Enfin bon, bref.
Vous ment dans ce podcast, il faut le savoir. Hein.
On parle beaucoup de pompes aujourd'hui.
Non, mais oui, c'est dingue. Et mon kiff, c'est une série que j'ai adorée, qui est probablement une de mes séries préférées de ces dernières années et qui s'appelle Normal People. Normal People, c'est une série irlandaise qui est sortie en vrai en 2020. Et qui en fait a eu du succès régulièrement, rapidement en Irlande, où les deux acteurs principaux sont devenus des méga rostas. Et moi j'avoue, je suis très 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 amoureuse de Paul Mescal.
Il est joli quand même.
Il est vraiment pas mal, mais je pense qu'on n'est pas seul parce qu'il a eu plus de 1 million de personnes qui ont voulu s'abonner à son compte Instagram et du coup il a dit je n'en peux plus, donc il a quit Instagram.
Franchement, vous pouvez me faire ça, moi je refuserai pas. Hein. Allez-y, hein. Donnez-moi de l'amour, je prends.
Bref, donc Normal People, c'est sorti en 2020 et si je vous en parle aujourd'hui précisément, c'est parce que donc quand cet épisode sortira, on sera le 17, c'est ça ?
Ouais.
Eh bien, sachez que 3 jours avant, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin, Normal People aura été mis en ligne sur France TV/, de manière gratuite, ce qui est vraiment très cool si vous avez raté la série en 2020. Et parallèlement, je crois qu'elle va être diffusée aussi sur France 5. Voilà. Et Normal People, c'est l'histoire de deux personnes qui s'appellent Marianne et Connell. J'ai pris des notes, mais attendez, je dis
la
juste...
La personne dit j'ai pris des notes, je peux quand même visuellement vous expliquer. Elle a une enveloppe format A3 sur laquelle elle a écrit avec un Velleda géant, donc vraiment ses notes, on dirait la Go, elle est au tableau, tu vois. Elle a vraiment un projecteur, quoi.
C'est sachant que sur ses notes, colis, le seul truc qu'on comprend, c'est entre parenthèses sexe.
C'est vraiment à côté de Paul Mescal, c'est pour dire que je l'aime.
Paul Mescal, entre parenthèses sexe. C'est bon, j'ai mes notes pour l'épisode.
Et voilà pourquoi vous n'avez que 50% des infos.
Donc, c'est l'histoire de Marianne et Connell. Alors, Marianne et Connell, c'est des adolescents. Ils vivent en Irlande, dans un petit village. Et ils viennent de milieux sociaux hyper différents. Donc, Marianne, c'est plutôt une gosse de riche qui est avec sa mère, qui est à peu près la pire daronne qui existe au monde. C'est vraiment une personne très méchante. Et lui, c'est un gars dont la maman fait des ménages. Et en fait, sa maman fait notamment des ménages chez la maman de Marianne. Bref, ils vont donc à l'école ensemble et ils se fréquentent aussi un petit peu en dehors des cours jusqu'au jour où ils vont évidemment entamer une relation amoureuse passionnelle. Sauf que Connell a beau être quelqu'un de très intelligent, ça l'empêche pas d'avoir un peu honte de la fille qu'il date au lycée parce que ses copains sont globalement très... Enfin, sont globalement des imbéciles qui martyrisent un petit peu cette pauvre Marianne parce que Marianne, c'est une fille qui est solitaire, c'est une fille qui est beaucoup dans ses bouquins, qui est très bonne élève et du coup, elle est pas très populaire. Je raconte bien ou pas ? J'ai l'impression que je raconte
pas très bien.
Ok, super. Et donc, bref, Marianne et Connell, ils tombent amoureux. Ils découvrent la sexualité ensemble. Ils découvrent l'amour ensemble. Ils découvrent aussi que tous les deux sont des grands passionnés de littérature, ce qui va un petit peu être le ciment de leur couple.
Est-ce qu'ils se lisent des livres à voix haute?
Ils se lisent des livres, ils se lisent des livres, ils lisent des livres ensemble, ils lisent des livres tout seuls. Et même Connell a l'ambition de devenir écrivain, mais il s'en vante jamais, parce que notre Connell, il est taiseux, il est humble, en plus d'être sexy, enfin je n'en peux plus.
N'oublions pas, sexe.
Et en fait, malheureusement, eh ben Connell, à force de mépriser un petit peu Marianne dans les couloirs de son école, ben Marianne lui dit « va chier ». Donc, ils se séparent et puis ils se retrouvent sur les bancs du Trinity College, donc l'école supérieure. Et là, les rapports se sont un petit peu inversés, c'est-à-dire que Marianne est devenue une meuf archi populaire qui brise des cœurs, tout le monde est amoureux
comme
d'elle.
Comme Matisse avec ses ex, elle a glow up.
Exactement, elle a grave glow up. Elle,
j'ai
même, elle a changé.
Quand tu...
Elle a changé de look. Elle met du vernis noir. Enfin, wow!
Wow, girl! Ça se passe à notre époque?
Oui. Okay. Et lui, il a du mal à se faire des potes. Et du coup, les rapports sont complètement inversés. Et il se retrouve à la place de Marianne. C'est-à-dire que c'est lui qui est la source un petit peu du mépris
un
des amis de l'autre partie. Un peu le bisu. Et en fait, c'est leur histoire d'amour sur plusieurs années. Comment ça évolue en fonction du regard des autres, en fonction du regard qu'on pose sur soi-même. C'est une série qui, en fait, a un pitch tout simple. Je veux dire, c'est une histoire d'amour entre deux ados qui grandissent. C'est tout ce qu'il y a de plus commun. Et en fait, ce qui est génial dans cette série, c'est qu'elle a été écrite avec tellement de minutie, de profondeur. Je sais, en fait, c'est Sally Rooney donc c'est un bouquin, la base de Normal People. Son autrice, c'est Sally Rooney, qui a écrit en 2017, je crois, son premier bouquin. D'ailleurs, va faire l'objet d'une série sur Hulu. Conversation with Friends, exactement. Et donc, Conversation with Friends, c'est le premier bouquin de l'autrice de Normal People. Elle l'a écrit en 2017 et elle l'a écrit en 3 mois, JPP. Ça fait vraiment un an et demi que j'essaie d'écrire mon livre. J'en suis à la page 82. Et donc, elle a eu un succès immédiat avec Conversation with Friends. Succès immédiat et tout. Et du coup, l'année d'après, elle a sorti Normal People. Et pareil, 2 ans après, ça a été adapté à la télévision. Et franchement...
Bon parcours quand même. Ouais. Ça va d'enchaîner les chefs-d'œuvre.
Elle avait 26 ans quand elle a écrit son premier bouquin.
Oui, bon.
Donc j'ai vraiment le seum absolu. Mais franchement, moi, j'ai pas lu le livre Normal People. Mais sitôt
que
j'ai vu...
Il est incroyable.
C'est vrai.
Moi, j'ai pas vu la série et j'ai lu le livre. Et vraiment, c'est... Merveilleux, j'ai trop hâte de voir la série justement maintenant que j'ai lu le bouquin et qu'elle revient un peu sur les plateformes gratuites, parce que le livre il est merveilleusement bien écrit, tu vois, tu parles de minutie dans la manière dont le scénario de la série est écrit, c'est vraiment un truc qui se ressent dans le livre, bah, de toute façon tu l'as très bien dit, hein. C'est une histoire qui a l'air très simple comme ça, mais qui est racontée avec une beauté, une précision, une espèce de mélancolie qui est propre au rapport humain,
ouais,
et notamment
ça.
Aux histoires d'amour adolescentes qui marchent jamais bien, parce qu'en fait on se comprend pas, on sait pas qui on est et tout, il y a un truc hyper... Enfin, vraiment, moi, c'est merveilleux. C'est un des meilleurs trucs que j'ai lu en 2020.
Ah
2020,
ouais?
Ouais, 2021.
Mais j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment racontée l'intime, alors que, en vrai. Enfin, franchement, moi, au début, j'étais pas hyper convaincue parce que c'est une pote qui m'a dit regarde Normal People, et en fait, c'est une de mes amies qui a très mauvais goût.
Et on l'embrasse.
Et on l'embrasse. Coucou, Alex. Et du coup, je te dis, vas-y, je regarde pas. Et puis, les trucs sur les ados qui se roulent des pelles, m'en bats les steaks. Et franchement, ce qui m'a captivée, c'est vraiment la manière dont est traité l'intime, même leur réflexion. Tout est, je sais pas, tout est bien pensé. Et en plus, la mise en scène est très simple, assez dépouillée. Puis, ça se passe en Irlande, l'accent est super, les décors sont super.
Ouais, t'as dit petit village irlandais, j'étais là, putain, ça va tellement me foutre le seum cette série.
Non, mais
c'est avoir envie de me casser en Irlande, avoir 15 ans et rencontrer Paul Mescal. Là, je sais pas qui.
Ceci dit, il pleut tout le temps, donc tu seras à ta place.
Ah, exactement. La pluie, ça sera trop bien.
Enfin voilà, donc vraiment, c'est 12 épisodes de 30 minutes, ça se binge hyper facilement. Donc vraiment, si vous savez pas quoi faire, la Saint-Valentin est passée le jour où vous écoutez cet épisode. Mais les jours d'après, n'hésitez pas à binger Normal People, c'est vraiment la meilleure série.
Yes.
J'ai été ravie.
Je m'en vais. Oui, tu veux dire au revoir?
Au revoir, je vous aime, je m'en vais, je fuis.
Il y a vraiment zéro contexte à ce...
mettre le contexte après.
Non, mais il faut que j'explique ou je dis au revoir pour qu'on le rajoute à la fin au montage.
Ah non, bah explique.
Franchement, j'ai envie de garder cette conversation, là. Ouais. J'ai envie de garder le côté un peu QG de crise du au revoir.
Je suis désolée, j'ai une interview qui ne peut pas attendre. Je vous aime très fort, je vous abandonne.
Quoi ?
Pour ces dernières minutes de Laisse-moi kiffer.
Mais comment on va faire ? Ce n'était pas prévu.
Faites comme
on
si j'étais là. Ne dites rien que vous ne diriez pas en ma présence.
Précisons qu'Aïda m'a dit, dans 1h15, on aura fini. Et je lui ai dit, mais oui, tranquille, on ne fait jamais des épisodes aussi long de nos jours. Eh bien, ouais. À part sur Twitch. Eh bien, ma foi, on a beaucoup parlé. Donc, Aïda nous quitte pour le dernier volet de ce LMK, mais elle reviendra.
Gros bisous, Aïda.
Bisous, Aïda.
Voilà, allez voir cette série, c'est la meilleure.
J'ai jamais aimé Aïda, moi.
Ah, le pire. podcast. Donc Normal People sur France TV / sur France 5. Et le lien est bien sûr dans la description de l'épisode.
Tout à fait.
All right. Eh bien, écoutez, c'est un épisode... Ah, pardon. T'avais
toi, je vais dire toi, Mimi.
Oh, elle me lance en plus, ça me touche. Eh bien, écoutez, c'est un épisode très culture, puisque mon kiff est aussi une production culturelle. C'est une série qui n'est pas très... qui n'est pas très récente, enfin, elle a 2-3 ans comme Normal People, mais elle est vraiment très bien et je viens de la rebinger avec mon mec. Du coup, je me suis dit, cool, c'est frais, je vais en parler. Je pense pas en avoir parlé à l'époque. J'ai pas vérifié si c'est un kiff doublon, tant pis, c'est toujours bien. Donc, j'ai regardé, car c'est dispo sur Netflix maintenant, American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Donc, c'est trop bien. C'est 10 épisodes, c'est une mini-série, enfin c'est une mini-série, c'est une série anthologique, donc chaque saison est dédiée à un cas spécifique. Donc voilà, en 10 épisodes, tout comme Normal People, vous aurez, enfin 12, vous aurez fini l'intrigue et c'est trop bien. Donc American Crime Story, c'est la dernière ou l'une des dernières séries en date de Ryan Murphy, que vous connaissez pour American Horror Story, mais aussi Glee, car c'est finalement un homme de multiples talents.
Entre temps, il a fait vraiment 4 séries.
Oui. Oui, mais bon, c'est, je dis oui, il a fait quoi? Il a fait Scream Queens, il a fait,
Scream Queens. Ratched, là, qui était raté. Puis, aussi.
Ah, moi, j'ai bien aimé Ratched, en vrai.
C'est vrai?
Ouais, Hollywood.
Ah oui, Hollywood, c'était sympa. Ouais.
The Boys in the Band aussi, non?
Et puis...
le truc bon, bref, avec le bal,
il y en a quelques-unes.
The Prom, je sais pas quoi, là.
Pause, enfin il y en a eu quand même pas mal.
Ouais, beaucoup.
Personne très talentueuse
Netflix,
qui a fait d'autres choses que Glee, donc et American Horror Story. Et donc American Crime Story, tout comme American Horror Story, est une série anthologie, donc chaque saison est indépendante des autres, mais il est possible que des acteurs et des actrices se retrouvent, et le showrunner reste le même, à savoir Ryan Murphy. Et c'est une série qui se penche sur des grands crimes de notre époque moderne qui ont bouleversé la société en profondeur. Par exemple, la saison 2, c'est sur l'assassinat de Gianni Versace, de la maison Versace. Et la saison 1, il a commencé très fort, à l'époque où en plus c'était les 20 ans de l'affaire, avec le procès O.J. Simpson, qui est un procès qui a bouleversé les États-Unis au début des années 90. Et en fait, c'est donc une reconstitution, American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson, du procès, de tout ce qui s'est passé entre le crime qui a été commis et le verdict. Et donc, si jamais vous n'étiez pas né ou comme moi, pas assez vieux pour être conscient des enjeux géopolitiques américains au début des années 90 ou que vous n'avez pas beaucoup écouté en cours, les bails O.J. Simpson, c'était un grand footballeur américain, afro-américain, c'est important, qui avait connu le succès de sportif, qui avait emménagé, c'est important aussi, dans un quartier très très riche de Los Angeles, à population très blanche. Donc en gros, c'est un sportif afro-américain qui est d'une certaine façon un emblème de la communauté afro-américaine, d'un homme noir qui a eu du succès et tout, mais il n'est pas spécialement engagé pour la communauté afro-américaine, il s'est un peu barré dès qu'il a pu et il a fait sa vie. Je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. On est dans des États-Unis, et notamment Los Angeles, là où il habite, qui ont été secoués quelques années auparavant par l'affaire Rodney King, qui a mis en lumière les violences policières racistes, comme a pu le faire plus récemment l'assassinat de George Floyd, pour vous dire que tout ça, c'est malheureusement une actualité qui continue à revenir. Et donc, il y a eu des émeutes, etc. Donc voilà, la ville est tendue. Les États-Unis sont encore marqués des vraies émeutes qu'il y a pu avoir à Los Angeles, qui cristallisaient toute la façon dont la population afro-américaine est discriminée et maltraitée. Et l'ex-femme de O.J. Simpson, ainsi que son compagnon de l'époque, je crois, sont retrouvés assassinés dans le quartier où ils habitent, ainsi que O.J. Simpson. Et assez vite, O.J. Simpson devient le seul et le principal suspect de ce meurtre. Il avait déjà été... s'était avéré battu cette femme, quand ils étaient ensemble. Il avait un rapport assez malsain avec elle, très possessif et tout. Et donc, il y a des traces de sang, il y a plein de preuves, il y a plein d'éléments tangibles qui semblent quand même montrer que c'est pas mal lui qui l'a planté, quoi. Et puis c'est un meurtre horrible, vraiment, je sais pas combien de coups de couteau et tout, c'est pas... je sais pas, je l'ai cogné mal et elle est mal tombée, quoi. C'est vraiment, on voulait la tuer. Et donc O.J. se retrouve le suspect principal. Donc c'est une affaire qui médiatiquement est totalement dingue parce que c'est une méga star, le gars, c'est une méga star du foot. C'est une affaire d'un homme noir qui est accusé d'avoir tué une femme blanche dans des États-Unis qui sont déjà en proie avec la violence policière raciste et le fait de souvent target cibler spécifiquement des hommes noirs comme suspects des crimes. Et tout ce procès devient, cristallise énormément de tensions dans la société américaine et devient une sorte de cirque médiatique qui dure des mois, quasiment un an, avec un jury qui est choisi. À un moment, il y a une sélection du jury dans la justice américaine où tu peux pas choisir qui est juré dans les jurés populaires, mais l'accusation comme la défense peuvent en éliminer, en disant ils vont être biaisés. Par exemple, bah, tu vas pas prendre un flic pour être juré dans une affaire où il y a des flics qui sont en examen parce que tu vas dire il va peut-être être biaisé. Et donc l'idée, c'est d'éliminer et de faire les portraits robots des jurés qui ont le plus de chances d'aller dans ton sens. Et ils disent que pour l'examen des jurés, ils leur posent à chacun 294 questions, tellement le cas est compliqué et représente tellement de choses. Dans, par exemple, si t'as déjà été battu par ton compagnon, bah, tu peux pas être juré parce que du coup tu vas être biaisé envers le fait que le mec il a été violent envers sa femme. Est-ce qu'on veut des personnes noires? Est-ce qu'on veut des hommes noirs? Est-ce qu'on veut des femmes noires? Enfin, il y a plein de questions qui sont hyper intéressantes pour qui aime bien un peu le côté théâtre de la justice américaine avec les avocats qui font des grandes plaidoiries et tout. Et donc 10 épisodes, c'est 10 épisodes sur toutes les étapes du procès. Le dernier, c'est le verdict. Et c'est incroyablement quali. C'est trop bien. Gros casting. O.J. Simpson est joué par Cuba Gooding Jr., que personnellement, je connais pas trop. Je pense qu'il est moins connu en France. Il fait souvent des... C'est pas un acteur premier rôle, genre Denzel Washington, mais il s'en sort très bien, je trouve. Après, voilà, je suis peu familière du vrai, donc je vais pas dire qu'il le joue très bien, mais en tout cas, il joue bien. Il y a David Schwimmer, alias fucking Ross dans Friends, qui joue le père Kardashian, à savoir le père de Kim Kardashian et ses sœurs, l'ex-mari de Kris Jenner, qui était un très proche ami d'O.J. Simpson et qui a joué en partie son rôle d'avocat, tout en... C'est probablement une des meilleures performances de la série, en vrai, ce gars, parce qu'il est aussi partagé dans... Mais en fait, peut-être qu'il l'a buté. Et peut-être que mon pote, il a buté son ex-femme qui était aussi mon amie et qui était... Enfin, ce truc de « bien sûr, je crois à ton innocence », mais il y a quand même pas mal de preuves, fraté, hein, c'est chaud ou pas ? Et il y a ce truc de « bah oui, mais c'est pas lui, c'est qui ? Qui serait allé là ? Il n'y a aucune trace de quelqu'un d'autre ? Qui serait allé buter cette random meuf dans un quartier hyper huppé et tout ?» Donc il doute aussi, et c'est hyper intéressant de voir ce doute. Il y a un John Travolta au sommet de sa forme qui joue l'avocat principal au début, en tout cas d'O.J. Simpson. Il y a Sarah Paulson qui est habituée des rôles du coup chez Ryan Murphy. Mmh. Elle est dans American Horror Story, elle était dans Ratchet, elle est incroyable. Et elle joue Marcia Clark, l'avocate de la défense, du coup, enfin, qui est de l'accusation, The People vs. O.J. Simpson. Donc elle est dans la team, il est coupable, on va le faire condamner. Et c'est vraiment un roller coaster, c'est hyper bien réalisé. On comprend tout. Alors, c'est quand même voilà, des questions légales, des questions de culture américaine, parfois de sport et tout. Moi, je suis pas super familière, mais c'est hyper limpide. C'est rythmé, genre, on dirait un bon épisode de Game of Thrones, quoi. Tu t'arrêtes de respirer tout le temps. Il y a des plot twists et tout est vrai, quoi. Tout est vrai parce que ce procès était complètement ma boule. Et c'est vraiment un plaisir. Je l'avais bingé quand c'était sorti il y a quelques années. Et là, mon mec l'avait pas vu. Et ça fait assez longtemps pour que j'ai un peu oublié. Donc, j'étais là, vas-y, regarde ça. Et on l'a bouffé en 2 jours. Parce qu'on n'a aucun self-control et que 10 épisodes, ça passe vite. Même s'ils sont longs, ils font 1 heure chacun. C'est vraiment trop bien d'un bout à l'autre. C'est rare d'avoir des séries ou des saisons de séries qui sont, moi, je trouve, irréprochables. Et ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas au courant du verdict, c'est de ne pas googler et de regarder ça vraiment comme une... Alors, pas comme une fiction parce que c'est réel, mais avec le suspense de, du coup, à la fin, est-ce qu'il est condamné ou pas. Puisque moi, j'ai beau avoir eu des cours de civilisation américaine qui étaient quand même censés m'apprendre tout ça, et on a largement parlé d'O.J. Simpson, j'ai évidemment tout oublié en sortant de la fac car ça ne me servait plus dans ma vie. Et du coup, la première fois que j'ai regardé, j'étais vraiment en mode, je sais plus comment ça finit, j'ai un côté suspense, plot twist, il y a quoi dans le dernier épisode qui est hyper bien. Et vraiment, à chaque épisode, il y a une nouvelle dinguerie où t'es là, mais c'est pas possible. Genre, je sais pas, t'as un des flics impliqués, bon, parce que du coup, la storyline de la défense, c'est... O.J. Simpson est noir, on sait que la police de Los Angeles est raciste, donc il est suspect parce qu'il est noir, et c'est pas lui qui l'a fait. Et du coup, tout le but, c'est de spin l'histoire sur il est suspect parce qu'il est noir, mais c'est pas lui qui l'a fait. Et il se trouve qu'un des flics impliqués, c'est effectivement un gros raciste, mais pas un raciste en mode normal, genre non, le gars, il a des médailles avec des croix gammées chez lui, il a une collection de médailles de la nazie, donc t'es là, ah ouais, non, mais c'est quoi le pourcentage de chance pour qu'un flic qui a bossé sur le truc O.J. Simpson, ce soit un putain de nazi ? Alors, il n'est pas nul, car il y a des nazis dans la police, mais quand même, c'est pas de chance. Donc voilà, il se passe énormément de trucs. C'est une bonne porte d'entrée vers un truc hyper important dans l'histoire récente des États-Unis. Et je pense que voilà, on peut pas comprendre à 100% la résurgence du mouvement Black Lives Matter et l'affaire George Floyd si on n'a pas conscience de, historiquement, voilà, il y a seulement 30 ans, il y avait O.J. Simpson, il y avait Rodney King et tout. Et en plus, c'est hyper bien joué. Il y a plein de thunes, vraiment, ça dégouline de pognon, tout est magnifique. Donc, un plaisir.
Ça voilà. Me fait grave penser à un autre truc qui est sorti sur Netflix il n'y a pas, j'allais dire il n'y a pas si longtemps, mais ça fait quelques années quand même, le When They See Us de
C'était bien.
Ava DuVernay.
C'était la dep.
Waouh, c'était dur ça. Ouais, où en gros on est sur ce même truc de 4 ados, alors là c'est des ados pour le coup, mais afro-américains ou latinos qui sont pareil target dans l'histoire d'une agression d'une joggeuse, je crois.
Ouais, à Central Park.
Ouais, c'est ça. Et en gros, là pour le coup, on voit dès le début qu'ils sont complètement innocents et que c'est improbable.
Ah oui, là spoiler, c'est pas eux. Hein.
Genre... Là, vraiment, c'est, on a pris les quatre pélos qui étaient là. Oups, ils sont noirs. et puis après, on suit la garde à vue. Enfin, c'est horrible. C'est une mini-série, quatre épisodes. Et j'avais regardé ça en pleurant tout le long, mais vraiment en pleurant sanglots. Genre. Voilà.
Oui, alors pour le coup, il y a vraiment un côté de divertissement dans The People vs. O.J. Simpson. Ça va pas vous déprimer. Il y a bien sûr des sujets graves, les violences faites aux femmes, le racisme, etc., les violences policières qui sont abordées. Mais on reste sur, enfin, Ryan Murphy, ce qu'il fait, c'est jamais, t'es là, tu chiales de ouf, quoi. Donc, 10 épisodes de fun, et après peut-être 4 épisodes de Wednesday See Us pour creuser le sujet. Mais voilà, c'est American Crime Stories, The People vs. O.J. Simpson, c'est dispo sur Netflix, et personnellement, je trouve que c'est de loin la meilleure saison de cette série pour l'instant. Donc, allez la binger. C'est la fin de ce long épisode de Laisse-moi kiffer. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Merci Mathis, merci Kalindi.
Mais de rien.
Merci Aïda qui n'est plus là, mais toujours dans nos cœurs. On vous donne rendez-vous, attendez, on est le 17 au moment où vous écoutez ça, donc on vous donne rendez-vous jeudi prochain sur Twitch, car c'est le dernier jeudi de février. Nous serons sur Twitch jeudi 24 à 20h avec Mathis, Kalindi ainsi que Cédric. Voilà, je l'ai dit comme ça, maintenant c'est obligé, plus personne ne peut décommander. Allez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.